Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 mars 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va-t-il ?
Le cœur. Très bien, merci.
Bon, très bien. Et vous, Marquis ?
Oh, très bien, quand je vous vois.
Ben, c'est gentil, je suis bien obligé. Alors, ce soir, on a un programme un petit peu particulier. Je voudrais le signaler tout de suite, parce que, en deuxième partie, on va traiter un sujet délicat, c'est-à-dire à partir de 19h30. Un sujet délicat, intéressant et délicat, qui concerne un film qui va sortir la semaine prochaine à Paris, qui s'appelle, qui est un film à la gloire du docteur Kinsey. Docteur Kinsey, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un Américain qui a publié une enquête dans les à la fin des années 50, une enquête sur
Kinsey,
sur les mœurs privées du bétail humain et on a fait un film à sa gloire. Or, mon excellent camarade Daniel Amiche a entrepris la traduction d'un ouvrage paru aux États-Unis sous le titre « The Kinsey Corruption ». Bien l'accent ?
Oui, mais ça me va.
Voilà. qui sera traduit probablement par « Kinsey le corrupteur », publié aux éditions de L'Homme Nouveau. Et nous allons en parler avec le docteur François Plantet, qui est, je le rappelle, neuropsychiatre. Et c'est un sujet qui n'est pas vraiment destiné aux enfants et aux jeunes adolescents. Donc, si vous voulez les écarter du poste de radio...
Je vais me coucher tout de suite.
Oui, vous pouvez partir, Marquis, à partir de 19h30.
Vous serez privé de
mœurs. Vous serez privé de mœurs. Non, je pense pas que ça soit utile de donner aux enfants des détails trop... précis, mais on est obligé, comme il faut en parler, parce que il est en train de se monter autour de ce film, une véritable opération de surpourrissement, il faut en parler tout de suite, pour essayer d'avertir ou d'alerter les populations. Donc ça, ça sera dans la deuxième partie. Dans la première partie, je recevrai M. Magdi Sabri Zaki, qui est écrivain, qui est professeur de droit à Paris 10, toujours. Vous exercez toujours ?
Vous permettez de rectifier Magdi.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Magdi Sabri ?
Pas Sabri, Magdi Sami. Sami de Samuel.
Ah, pardon. Bon, alors, pourquoi on m'a écrit Sabri ? Bon, je ferai abattre la personne qui a écrit ça dès la fin de cette émission.
C'est l'habitude, c'est tous aux abris.
Alors, Magdi Sami Zaki. Zaki, c'est votre nom ?
Oui, c'est ça.
Vous êtes copte, égyptien ?
Copte d'Égypte.
Copte d'Égypte, oui. Et vous venez publier aux éditions de Paris un livre qui s'appelle « L'histoire des Coptes d'Égypte ». Alors vous allez me dire, pourquoi parler de l'histoire des Coptes d'Égypte dans cette émission ? Bon, d'abord parce que je parle de ce que je veux dans mon émission, mais aussi parce que c'est un sujet tout à fait passionnant, parce qu'en réalité c'est surtout un bon avertissement qui nous est donné. C'est un avertissement copieux, c'est un livre qui fait près de 1000 pages, mais qui est très intéressant parce qu'il y a toute l'histoire de la nation copte ou du peuple copte, une histoire très méconnue. Et puis il y a surtout un développement très intéressant et très édifiant pour nous sur le statut de dhimmi, sur la dhimmitude, c'est-à-dire le statut de non-musulman en terre musulmane. Et nous discuterons de ça avec Monsieur Zaki, qui a expérimenté la situation de dhimmi. Il en a exploré tous les charmes, et finalement il s'est dit que tant qu'être dhimmi, valait mieux être dhimmi en France qu'en Égypte. Mais je pense que la dhimmitude ne va pas tarder à vous rattraper, Monsieur le Professeur. On en parlera donc tout bientôt. Je recevrai ensuite Pierre Lens, qui est un journaliste et un écrivain, et qui a publié deux livres, enfin, ou un ouvrage en deux volumes. Qu'est-ce que tu veux, Victoria ?
Mon crayon.
Oh là là, qu'est-ce qu'elle est réclameuse. Un ouvrage en deux volumes, « Savons maudits, chercheurs exclus ». On en a déjà parlé, mais je n'avais jamais reçu Pierre Lens, et qui est une espèce de wouzou de la science maudite, de la science interdite.
Très incomplet, hélas.
Bah oui, hélas, parce qu'on préférait qu'il y en ait moins. Mais qui est l'histoire, enfin des notices de présentation de tous les gens qui ont inventé des choses extraordinaires. Beljanski, par exemple, Ribot, mais aussi Prioré, mais aussi
Solomides,
mais aussi Tesla, mais aussi etc., etc. Pas seulement dans le domaine de la médecine, mais beaucoup dans le domaine de la médecine, et dont les découvertes, en dépit de leur succès thérapeutiques brillants, là je parle des découvertes médicales, ont été étouffés, les auteurs de ces découvertes étant eux-mêmes traités comme des malfaiteurs, jetés en prison, interdits d'emploi, berufsverboten, comme on dit,
comme on dit là-bas.
Et voilà, donc on parlera de ce livre qui est extrêmement intéressant. Et la deuxième partie sera consacrée au sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire Kinsey le corrupteur. Petite revue d'actualité, si vous voulez, on a eu un nouveau tsunami, ce qui nous a permis de découvrir, à la faveur d'un reportage, je crois, sur Antenne 2, il me semble que c'est Antenne 2, je suis pas sûr, on a vu une dame du Secours Populaire, pas de sympathie pour le Secours Populaire, Dieu sait, mais enfin, cette pauvre femme, elle avait l'air bien dévouée, elle a expliqué qu'elle avait jamais vu un petit sou des milliards qui ont été envoyés là-bas.
Il y a une grande question à ce sujet-là, oui.
Ah oui, il y a une grande question, comme dit Pierre Lens, une vaste question, où qu'est passé l'argent ? Alors, on sait une chose, en tout cas, c'est ce qu'a raconté cette personne qui était sur interviewée dans ce reportage, c'est qu'il y a une île qui a été ravagée par le tsunami, et donc par le raz-de-marée. Et il est resté une cinquantaine de familles qui ont survécu. On est venu voir ces gens-là, enfin les autorités gouvernementales sont venues voir ces gens-là en disant maintenant il faut partir, parce qu'on va profiter de la circonstance pour transformer votre île en parc national, c'est-à-dire en fait pour y construire des hôtels de luxe. Et alors ils ont dit, mais où on va aller ? Oh ben ça on n'en sait rien, de toute façon, vous avez des titres de propriété ? Ben non, on a rien. Ah ben alors donc, elle foutait le camp, on n'avait rien à faire ici, etc. Et c'est cette brave femme du Secours Populaire qui s'est débrouillée toute seule pour trouver 84 000 euros, qui pour une fois sont pas tombés dans les pattes du Parti communiste, pour acheter du terrain et reloger ces miséreux et ces malheureux. Alors je pense que ça serait intéressant quand même que les autorités françaises si elles en ont le temps entre deux voyages.
Il y a une autorité, surtout.
Oui, c'est ça. Se renseigne sur l'usage qui a été fait de cet argent, parce que, apparemment, c'est de l'argent qui a été perdu, mais, suivant le bon vieux principe, il n'a pas été perdu pour tout le monde. Et ça, je pense que...
Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, oui, c'est ça. Non, mais, c'est véritablement scandaleux, parce que...
Ouais, absolument.
On a tellement pris d'argent aux Français que le président de Médecins Sans Frontières avait fini par dire, écoutez, arrêtez d'envoyer du fric, on ne sait plus quoi en faire.
Maintenant qu'on en a besoin, il y en a...
Et puis maintenant qu'on en a besoin, il n'y en a plus. Alors, je dirais qu'on va publier un article sur cette question dans le prochain numéro du Libre Journal, pas celui qui vient de sortir, mais celui qui sortira la décade prochaine, parce que c'est quand même un sujet central, ça. Ça me paraît intéressant de se pencher là-dessus, et je dois dire que le manque de modestie qui me caractérise, que c'est une chose que j'avais annoncée dans le premier papier que j'ai fait sur le raz-de-marée. On savait que ce fric serait volé, bien entendu.
C'est un vrai grand spécialiste du manque d'argent, de toute manière.
Oui, c'est ça, mais pas du vol. En tout cas, si les poches où il tombe, c'est pas les miennes. J'aurais bien voulu, parce que...
Elles sont percées.
Oui. Deuxième sujet, alors là, qui fait mon bonheur, c'est l'histoire du lundi de Pentecôte. Vous savez
Monsieur
Jacquet, vous avez peut-être vu qu'on a, en France, le gouvernement a décidé de supprimer le lundi de Pentecôte férié. Jusqu'à présent, on ne travaillait pas le lundi de Pentecôte. Et le gouvernement a dit, il faut travailler parce que les vieux meurent de chaleur. Alors, vous voyez peut-être pas le rapport, mais je m'en vais vous l'expliquer sans perdre de temps. On a dit... Avec l'argent que va générer ce travail du lundi de Pentecôte, on va pouvoir acheter
des ventilateurs
et des climatiseurs qui vont donc tuer les vieux de froid ou d'asphyxie plutôt que de les tuer de chaleur. Bon, mais ça, il y a bien un moment où il faut mourir. Hein, bon.
Parce que vous me demandez certainement un commentaire fracassant sur les sujets.
Oui.
Je vous le donne en toute amitié. Ça fait partie de la déchristianisation, déchristianisation de l'Europe.
C'est ça. Et de la crétinisation de l'Europe.
Mais alors, oui. Pardon, vous voulez en parler?
Justement, parce que, puisque vous, par l'association d'idées, il faut que les gens se pensent aussi à la désislamisation de la Turquie.
Ah ben voilà.
Alors, ce lundi de Pentecôte a été, le lundi de Pentecôte férié chômé a été supprimé. On a dit, il faudra travailler le lundi de Pentecôte. D'accord. Alors, ça serait intéressant dans un pays où il y a le plein emploi, par exemple. Bon, on peut plus trouver de gens qui travaillent, donc il faudrait faire travailler plus. Mais dans un pays où il y a à peu près 5 millions de sans-travail, dont 2,5 millions déclarés, les autres se contentant de survivre, c'est un petit peu bizarre de dire à ceux qui ont du travail, il faudrait travailler encore plus. Et puis, deuxièmement, c'est aussi un petit peu bizarre de faire produire encore plus aux usines dans un pays où les gens n'ont pas de fric pour acheter. Donc, pour commencer, les experts ont fait un petit calcul et, d'après certains économistes sérieux, si vous me permettez de rapprocher ces deux mots, il semblerait que le fait de faire travailler les gens de l'année de Pentecôte va produire 150 000 chômeurs de plus. Notamment, on va supprimer plus exactement 150 000 emplois saisonniers et intérimaires.
À la NPE ? On va les supprimer à la NPE ?
Non. Les gens vont plus. Les intérimaires et les saisonniers n'auront plus de boulot pour 150 000. Bon. Il y a un autre truc qui est très drôle, c'est que, comme toujours avec ce gouvernement de l'OPET, ils ont commencé par dire il faudra travailler le lundi de Pentecôte, et puis 15 jours plus tard, ils ont dit enfin, ou un autre jour. Hein, du moment qu'on supprime une fête chrétienne, vous pouvez y aller. Bon. C'est vrai qu'en France, pour l'instant encore, quand on supprime une fête, c'est presque forcément une fête chrétienne ou une fête franc-maçonne, mais ça, on touche pas, parce que ça serait le 14 juillet ou le 8 mai. Giscard a essayé de supprimer le 8 mai, il s'est fait taper sur les doigts, donc...
Une opérette de Francis Lopez.
Alors, ils ont dit donc un autre jour. Alors, naturellement, les premiers qui ont obéi, c'est ceux qui sont directement intéressés à la chose, c'est-à-dire le maire de Nîmes, qui a dit, qui est UMP, et qui a dit que Raffarin était un imbécile.
Non.
Donc, si, en gros, oui, il a dit ça. Hein. Donc, si même les gens de l'UMP s'en aperçoivent, c'est que la situation est grave. Hein. Et alors, donc, il a dit, moi, je fais pas ça le lundi de Pentecôte, je vais faire ça le lundi de Pâques.
Oui, parce qu'il y a la feria.
Donc, on ne chôme pas le lundi de Pâques, mais le lundi de Pentecôte, on chômera à cause de la feria. Le résultat, c'est que les gens, le lundi de Pâques, ils ont gardé les enfants à la maison. Il y a deux, trois profs qui sont allés travailler. et pas les autres. Enfin, c'est, comme on dit également, un bordel généralisé.
Oui, avec les cantines qui fonctionnaient, les autocars, voilà, le ramassage scolaire, en fait,
à vide,
pognon foutu en l'air.
Tout à vide, oui, oui. Et donc, ça va recommencer le lundi de Pentecôte. Parce que ceux qui ont... Bon, ça, c'est absolument certain. Ceux qui ont travaillé le lundi de Pâques ne vont pas aller travailler le lundi de Pentecôte. Du coup, ceux qui n'ont pas travaillé Pentecôte vont se dire oh, « c'est pas la peine d'y aller puisqu'il n'y aura plus d'autocars ». Alors bon, voilà. Donc, on est bien barré. Pour, je dois dire que moi, ce gouvernement me plaît beaucoup.
Ah, bah, oui,
hein,
oui,
c'est bien. Aussi,
hein.
Oui. Donc, voilà. Et puis alors, il y a la superbe histoire de la pétition anti-racaille. Alors ça, c'est magnifique.
C'est merveilleux.
Ça, c'est magnifique. Parce que quand même, quand on voit... ces messieurs dont les noms m'échappent, il faut dire que j'ai pas fait grand chose pour les retenir.
Ça nous évitera des
voilà, ça nous évitera des appels téléphoniques désagréables.
Oui.
Enfin, quand on voit ces gens qui nous disent mais comment alors voilà maintenant qu'il y a du racisme anti-blanc, oh dites-donc.
Oui, oui,
moi ça fait 40 ans que
oui,
je suis
là. Oui,
c'est 40 ans. Et pendant 40 ans, j'ai été condamné à peu près 30 fois
pour avoir dit ça.
Mais c'est le racisme, c'est pas unilatéral et il est même plutôt dans l'autre sens, tu vois.
Touche pas à mon pote, maintenant c'est mon pote qui te touche. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, donc il y a 7 types, c'est quand même pas la relation.
Oui,
hein.
Non, mais c'est des épées quand même.
Oui, c'est
ce sont des épées.
Alors ils ont donc fait une pétition pour dire quoi ? Mais pour dire, faut mettre un terme au racisme anti-blanc.
Ah bah oui, tu penses.
Mais immédiatement, les autres se sont emparés du truc, leurs copains d'ailleurs. Du MRAP, de la LECRA, de la Ligue des droits de l'homme. On dit, mais le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Ils ont déjà fait un aveu formidable.
Trouver un autre nom.
Donc, c'est très très bien, c'est exactement ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que tout le problème, c'est de savoir que... il faut savoir comment on reconnaît un acte raciste d'un acte pas raciste. Hein.
Citer les bons auteurs.
Voilà. Alors, lui... Comment on fait une statistique du racisme en France ? Ben, on retient uniquement les actes contre des Arabes, des Africains, des Asiatiques ou des Juifs. On dit un Algérien giflé par un Français, c'est un crime raciste. Un Français giflé par un Africain, enfin j'ai pas écrit giflé, j'ai écrit plus dur, mais je veux pas être désagréable. C'est un drame de la misère. Alors je croyais que je plaisantais, mais pas du tout, ils disent exactement ça.
C'est ça, oui. Un drame social.
Voilà, c'est un drame social. L'acte n'est jamais qualifié en soi, mais selon la victime. C'est-à-dire que si vous faites un graffiti sur une synagogue... ou si vous foutez le feu à la poubelle d'une mosquée, c'est un acte raciste. Mais si vous saccagez une église, c'est du vandalisme. Quand vous avez porté plainte pour un acte raciste, les flics refusent de l'enregistrer. Parce qu'il ne peut pas être victime raciste, vous êtes blanc, monsieur. Revenez avec... Bon, ben voilà.
Rien que le fait de dire que c'est blanc, vous êtes
déjà,
dans le racisme. Hein, soyez
bon. Et ensuite, dans les médias, vous voyez... une vieille dame a été attaquée par un jeune Marseillais.
Mais de quoi se plaint-elle ?
Ou par un jeune Lillois.
Ah.
Je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin...
Attendez, le nom du Lillois.
Oui. Il n'est jamais donné.
Ah ben
en revanche, si c'est un ancien légionnaire,
voilà, alors,
tout de suite, on sait que Anatole Pitoiseau, ancien sous-officier de Légion, a violemment poignardé la concierge de deux rues de la Poupée qui tousse. Tout
si
est fait
vous permettez
pour...
une remarque,
oui,
je dirais que ça se retourne un peu contre eux.
Ah bah, il a
parce que le fait de ne jamais dire l'origine des gens fait que le public se dit immédiatement, voilà,
ça y est,
et donc finalement ça se, retourne,
bien sûr.
Ça se retourne.
C'est comme le lundi de Pentecôte.
Voilà.
Vous savez, l'avantage avec les imbéciles, c'est que quoi qu'ils fassent, ils se trompent. On peut... C'est assez facile de voter, quoi. Il suffit de voter le contraire.
Ce qui me gêne, c'est qu'ils n'ont pas compris que le pseudonyme, ça existe.
Oui.
Eh oui.
Jamais les actes commis contre les autochtones par des Africains, Maghrébins, Asiatiques ou Israélites ne sont décomptés parmi les actes racistes. Alors ça, c'est absolument constant. Et c'est quand même formidable que Le Pen vient d'être condamné pour avoir dit qu'un jour, les Français seront obligés de descendre du trottoir et de baisser les yeux. Et les casseurs de la manif, quand on les interroge, quand le monde les interroge pour savoir quelles étaient leurs motivations... Et ils disent, c'est parce que c'est des bolos qui regardent par terre parce qu'ils ont peur. C'est des lâches. Donc ils confirment absolument ce que dit
c'est
Le Pen. Mais Le Pen est quand même condamné à 15 000 euros d'amende pour l'avoir dit.
Il l'a dit trop tôt.
Voilà. Il aurait dû attendre le lendemain.
Oui, c'est ça.
Hein? Alors ils disent, c'est des petits Français avec des têtes de victimes.
C'est joli.
Hein, c'est joli.
C'est vrai.
Plutôt blond. Et il les tape pour le plaisir de taper. On leur dit, pourquoi vous tapez ? Pour le plaisir de taper, banane.
Mais oui, c'est
Ou alors, il y a une fille qui dit ah, c'est comme s'il y avait écrit viens prendre mes affaires sur leur front. C'est un peu vrai d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu vrai. Parce que quand on interroge ces gamins après qu'ils se sont fait botter le train, ils disent exactement ce qu'ils entendent à longueur de journée. Oui, mais il faut comprendre, ils sont malheureux et tout. Puis tout, oh, bah, on va pour un portable.
Bah oui,
papa en achète un autre.
C'est ce qu'on appelle, et c'est la chose, je crois, la plus terrible au monde, c'est le consentement de la victime.
Oui, c'est ça.
Et ça, dans tous les abus, c'est le pire de tout.
Bertolt Brecht a dit les veaux choisissent toujours leur boucher.
Et alors, il y a eu une réponse formidable. Et on dit, mais pourquoi vous les tapez? Et alors, Soukana a dit, parce qu'ils ont une religion bizarre.
Ah, ça, c'est drôle.
C'est joli.
Je ne l'ai pas encore lu, c'est dommage, je vais bien m'amuser.
Faudrait me lire de temps en temps.
Oui, mais c'est pas mal que vous ai corrigé.
Bien, je voulais donc.
J'ai reçu ce matin.
Et puis alors, il y a quand même une interview qui est parue de Jean-Luc Rosenzweig.
Non, c'est un pseudonyme.
Le patron du... Le président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Oui, oui.
Il n'est pas doué pour les pseudos.
Je l'ai connu dans une rue...
Oui,
hein,
pas voilà, en rue, mais bien sûr.
C'est lui qui vient après le Benjamin.
Ouais. Et alors, il dit que la délinquance en général vient des moins de 18 ans, qu'elle est plus fréquente, plus jeune, un petit peu plus féminine et surtout plus violente que par le passé.
Donc plus fraîche.
C'est tout ce qu'il a remarqué.
Oui.
Il a remarqué qu'ils étaient plus jeunes, ouais. Plus féminins. Ça m'a pas frappé, si j'ose dire, hein, pour attendre le sujet. Et alors il dit, voilà, cette idée. Alors ils ont entendu, les journalistes ont entendu et décrypté des propos tenus par certains jeunes qui sont venus à la manifestation délicière. Les propos, je viens de vous les lire, c'est pas difficile à décrypter quand même. Hein.
Ouais.
Voilà, alors il dit, c'est donc pas malheureusement une invention de journaliste, il dit Rosenzweig.
Ah.
Mais il dit, voilà, le fait d'afficher ça, c'est lié au fait que depuis peu, certains jeunes, alors écoutez bien ça, osent exprimer qu'ils pratiquent un contre-racisme. Et ce contre-racisme est à la hauteur du racisme qu'il ressent. Ça s'appelle la légitime défense.
Ouais, exactement.
Proportionnée à l'attaque.
Voilà.
La violence reflète toujours une difficulté personnelle ou collective. Et par ailleurs, elle reflète une incapacité de communiquer autrement.
Ben
c'est trop mignon, ça. Comme je ne sais pas comment communiquer, je vais te foutre mon poing dans la gueule et piquer ton portable, au moins j'aurai un moyen de communiquer.
Je ne sais pas si notre religion est zarbi, mais l'argumentation l'est.
Alors, il est de fait que dans cette société, nombre de personnes sont dans la capacité de communiquer normalement et leur douleur personnelle n'est pas prise en compte.
Ils parlent des
qui poussent ça. Hein,
oh, c'est triste.
C'est trop mignon. Hein. Donc, ils explosent.
Oui.
Et j'ajoute, dit le président du tribunal pour enfants de Bobigny, et j'ajoute qu'il pourrait exploser bien plus qu'il n'explose actuellement. En d'autres termes, nos jeunes des banlieues sont bien sages.
Oh, pas tous les espoirs sont permis.
Alors, vous comprenez, quand il y en a un qui arrive devant le juge là, il dit, c'est avec du gâteau, je vais me payer. On lui demande d'où ils viennent, il dit, c'est dur pour moi de répondre. Bon, c'est quand même un spécialiste de la petite enfance, enfin de l'enfance, de l'adolescente. Les renseignements généraux, les chercheurs en sciences sociales seraient mieux placés pour dessiner ce portrait. Il a au moins une caractéristique. Beaucoup de ces casseurs ne sont pas... Ça, c'est très important. Parce qu'il dit le contraire de tout ce qu'il vient de dire. Ne sont pas obligatoirement hors des circuits sociaux.
Ah,
ils
bah,
peuvent
oui.
aller à l'école le matin et casser l'après-midi. Ils peuvent faire le contraire aussi. Si
oui.
Mais l'après-midi,
c'est le tout, c'est de s'organiser.
Voilà. Leur motivation apparemment, au moins dans cette manifestation-là, était de casser du blanc,
oui, oui.
qu'ils identifient comme des personnes riches, fragiles et lâches, ce qui est vrai d'ailleurs. Il y a donc une volonté moins de s'approprier des biens que de faire du mal à des personnes. Bon, enfin, si on peut piquer un portefeuille au passage...
Jadis, pendant la grande quinzaine du blanc, c'est les prix qu'on cassait.
Oui, oui, c'est ça. Voilà, alors on lui dit, mais... Il y a un jeune qui lui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie sociale pour expliquer ça? Il dit, la jalousie, je sais pas, mais de l'injustice, c'est évident.
Ah bah oui.
C'est de l'injustice.
Hein? T'as le téléphone arabe, tu veux pas un portable en plus, non?
Alors, il dit, c'est l'expression exacerbée d'une faillite sociale et éducative.
Ah bah voyons.
Cette faillite que dénoncent les lycéens eux-mêmes. Et là, il a la solution, mes enfants, je vous la donne.
Ah oui, parce prendre un enfant par le train, comme tout l'autre.
Franchement, hein, Marquis, faites fort. Hein. La solution, c'est de réaffirmer les valeurs républicaines qui nous sont communes. Ah oui, autrement dit, pour lutter contre la violence, ce type, la seule référence qu'il a, c'est
la gueuse.
Les valeurs de la République, qui est quand même née dans un bain de sang absolument effroyable, voilà. Qui a duré pendant 10 ans.
Basé sur la jalousie, d'ailleurs, aussi.
Basé sur la jalousie, exactement ouais. Ça.
C'est le même système.
Il faut, dans le respect des groupes, des origines, réaffirmer les valeurs républicaines qui nous sont communes.
C'est n'importe quoi.
Mais c'est vrai.
C'est n'importe quoi.
Alors, on lui dit, selon vous, quelles doivent être les étapes pour une bonne réhabilitation des jeunes délinquants? La première, répond-il, est de savoir comment aider chaque jeune concerné à décrocher de la délinquance.
Oh long.
Cela passe par une prise en charge qui peut à la fois faire preuve de fermeté, en pouvant aller jusqu'à l'incarcération.
Oh l'eau.
Voilà, non. Mais qui doit aussi appeler à des mesures éducatives pour permettre la réinsertion sociale. Et en même temps, c'est la deuxième question, il faut éviter que de nouveaux jeunes ne deviennent des délinquants.
Ah bah oui.
Alors moi j'ai une solution, mais c'est là une politique bien plus complexe à mettre en œuvre. Non, je trouve pas. Avec une bonne clé, on y arrive. Hein.
Ah oui.
Voilà. Voilà par qui nous sommes jugés, mes enfants.
Nous ne sommes plus des enfants, on a une chance de ne pas être jugés par lui. Mais...
à coup sûr, dans un premier temps, ils ont ce sentiment d'injustice.
Bah oui,
ah oui, non, ils ont ce sentiment de peur de la justice, dit-il. Ne fût-ce que parce qu'ils savent qu'ils risquent une sanction souvent sévère. Mais peu à peu, écoutez bien, ils s'aperçoivent que l'objectif de la justice n'est pas de les punir, mais de les aider à ne pas être des délinquants,
oh.
Au point que certains viennent eux-mêmes demander protection à la justice, notamment à travers une prise en charge dans un foyer. À 650 euros la journée d'hébergement la journée, souvent dans des petits châteaux avec 3 éducateurs par délinquant, c'est quand même assez brillant, on peut dire. Hein?
J'ai dit, vénérable maître.
Voilà. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant...
Oh non, ça va,
non, ça va. Voilà.
Pour dire le nom du monsieur, quand même...
Rosenzweig,
voilà.
le juge,
pour
le président Jean-Pierre Rosenzweig, juge pour enfants. Oui, et il termine en disant non, la France n'est pas feu et à sang. Voilà. Non, il termine il termine pas en disant ça. Il termine parce que quand même, faut pas perdre de vue l'essentiel. On lui dit, remarquez-vous une augmentation d'actes antisémites de la part des jeunes des banlieues? Dans mon cabinet, non. Je vois pas pourquoi il y aurait des actes antisémites dans son cabinet, mais enfin ça. Mais de l'avis général des policiers et magistrats, oui. En lien avec le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, c'est sérieux. Il va falloir s'y attaquer plus que jamais. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Le dispositif français de la protection de l'enfance » aux éditions Jeunesse et Droit, paru en janvier 2005.
Très bien, restons dans le commerce.
Voilà. Parfois, du petit commerce. Je signale aux auditeurs, alors, une nouvelle extrêmement intéressante. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, était paru un livre intitulé « Les vertes années d'un président ».
Oh oui.
C'était le journal intime de Marguerite Basset,
la copine de
présenté
la maman,
par Michel Basset.
Ouais.
Marguerite Basset, c'était une amie d'enfance, pas d'enfance, une amie de Madame
Chirac-Mère,
la mère de Jacques Chirac. Et ce livre est paru. Il a disparu instantanément. Il a été retiré.
Un succès considérable.
Ouais, non, il a été retiré sur demande de l'Élysée.
On a fait main basse sur Basset.
Voilà. Or, il y a un trouble fait.
Ah bon, une pipe.
Qui est un éditeur nouveau, pas un jeune éditeur, parce que c'est un homme mûr, mais qui est un éditeur nouveau qui travaillait avant dans une maison d'édition et qui a créé sa propre maison après avoir été viré. Parce qu'il a vraiment, il me semble qu'il a un caractère un peu raide à la toile, qui s'appelle Gozevitch, et qui publie sous le titre Une éternelle jeunesse, ce livre qui était introuvable. Donc, précipitez-vous, dans toutes les bonnes librairies.
Une éternelle jeunesse, c'est quand même pas des secrets de beauté.
Ah, mais une très belle photo de Jacques Chirac en couverture, très.
Ah oui.
Étudiant, très très beau jeune homme. S'il avait pu.
Il était ami avec Madame Basset, il a épousé un pitbull.
Parce qu'il avait peut-être un peu plus de chiens.
Alors,
c'est donc Jacques Chirac, Une éternelle jeunesse, journal intime de Marguerite Basset, présenté par Michel Basset, aux éditions Gozevitch. Alors, ça s'écrit G-A-W-Z-E-W-I-T-C-H. Moi, j'ai la version première.
Ouais, bah, je l'ai aussi. Ah oui, c'est un bonheur.
C'est formidable. Hein.
Ah oui, oui,
c'est
hautement intéressant et très ça explique bien.
Voilà. Et je me tourne maintenant vers monsieur...
Vous attendez vos auditeurs, ils réagissent et vous disent... Contrairement à une idée répandue, le lundi qui suit la Pentecôte n'est pas une fête religieuse. C'est une tolérance.
Très
avant,
bien.
C'était 8 jours. Daniel Amiche a expliqué ça la semaine dernière.
Ben oui, l'octave.
8 jours, l'octave de la Pentecôte. Donc, c'est un petit reste qu'on nous avait laissé. Pourquoi nous l'enlever? Il y a longtemps que la ratonnade n'est plus à la mode. Vive la franchonnade!
Ah, c'est mignon.
Bizarre. Il a fallu que les gamins de l'intelligentsia aient été frappés par les sauvageons pour que les médias parlent du racisme anti-blanc. Et que pensez-vous du traité de constitution européenne qui autorisera la pratique de toutes les religions, y compris donc celles qui font de la promotion des pratiques, de pratiques variées, telles que amputation de bras et de jambes, etc., etc. Bon, et de ceux qui font les prières, et de ceux qui font les prières au milieu des rues.
Enfin, j'ai jamais entendu parler d'amputation.
Non, moi je connaissais un peu la religion de Monsieur Stern, là, mais en fait, ça n'allait pas jusqu'à l'amputation.
Non, quand même pas.
Ah oui, c'était parti de trop de balles, c'est tout.
Oh là là.
Oui, ben, non, ce que j'en pense, et moi je veux dire, si on me demande vraiment ce que j'en pense, je trouve qu'il faut voter pour la Constitution parce que ça va faire exploser l'Europe. Mais, bien entendu, c'est une plaisanterie. Faut évidemment voter non. Mais c'est quand même dommage parce que ça aurait été très drôle de les mettre dans leur propre...
Voter pour la constipation européenne.
Oui, oui.
Et une dame vous assure.
Ah, oui, contre la constipation européenne.
Une dame vous assure que ce n'est pas la dame de la Croix-Rouge qui a dit qu'elle avait reçu de l'argent,
ben non, j'ai pas dit
mais
bien.
Le journaliste qui l'interrogeait.
Non, j'ai dit le secours populaire.
Pas la Croix-Rouge. Ça, c'est la télévision, c'est la radio en couleur, ça, la Croix-Rouge.
Enfin, quelqu'un nous demande, mais pourquoi n'entendons plus Monsieur Maigret sur Radio Courtoisie? Bien, si mes renseignements sont bons, je crois qu'il sera là samedi 2 avril à 12h. Donc, à vos micros.
Non, ça va être plus que moi.
C'est écrit sur le papier, hein. Moi je ne savais rien.
C'est bien.
Bon.
C'est tout.
C'est tout pour le moment.
Il n'y a pas d'injure.
Non.
Incroyable. Oh, ils sont fatigués, nos amis.
Oh là là. C'est l'octave de Pâques.
Ils ont renoncé.
Ils ont renoncé.
Donc la parole est à Monsieur Zaki. À moins qu'on ait. Est-ce qu'on a le Goffman? Non, on n'a pas le Goff. Bon, ben, il ira se faire cuire une paire d'œufs. Ça lui donnera des couleurs. Monsieur Zaki, vous avez donc publié ce livre qui s'intitule « Histoire des Coptes d'Égypte », qui est un gros travail d'historien et puis aussi de témoin. Et la première question que je vais vous poser, c'est une question élémentaire. Qu'est-ce que c'est un copte en réalité? Parce que quand je dis que vous étiez copte égyptien, vous m'avez dit non, copte d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'un copte? Qu'est-ce que c'est être copte?
Étymologiquement, mot copte ne signifie pas chrétien. Ce mot signifie tout simplement égyptien. Les coptes sont les descendants directs du peuple pharaonique. Tout simplement. Ils ont été envahis, colonisés, génocidés par les Arabes et par leurs successeurs. Est-ce que vous pouvez m'autoriser juste, avant de vous parler en tant qu'auteur, juste en tant qu'auditeur, je crois exprimer le sentiment de beaucoup de monde à tout ce que vous avez dit. Je vais le résumer en deux, trois mots seulement avant de parler, parce que c'est très important. J'ai entendu mon voisin qui parle de victimes qui ont tort. J'ai entendu que vous parliez de racisme anti-blanc. J'ai entendu aussi quelqu'un qui parlait de, ah oui, tout ça, ça s'explique par la violence. Juste un mot avant de parler de mon livre. En ce qui concerne les victimes ont tort, voilà un article publié dans Le Monde que personne n'accuse d'islamophobie.
Ça me paraîtrait un peu aventureux, effectivement.
Alors, d'une manière étonnante, ce journal publie le 12 août 2004 un article intitulé « Je hais l'islam entre autres ». Alors l'auteur dit « L'islam rend fou ».
Qui est l'auteur de cet article?
Oui, qui est l'auteur.
Voilà, vérifiez s'il vous plaît.
Ça m'intéresse parce que je suis poursuivi pour avoir dit non pas Ah oui, c'est Patrick Declercq, je ne suis pas d'accord avec lui.
Hein.
Non, ce n'est pas le problème d'être d'accord, mais moi je me suis contenté de dire que j'étais islamo-négatif et je suis traîné dans les tribunaux pour ça.
Je ne suis pas fou à cause de l'islam. Par contre, ce qui rend fou, c'est les relations sadomasochistes entre l'islam d'un côté et le christianisme de l'autre.
Ah, la relation sadomasochiste.
L'un frappe et l'autre tend l'autre joue. On peut parler pendant des heures, mais c'est pas ça le thème. Bon, deuxième point, vous avez parlé de racisme anti-blanc. Eh bien, je dois vous dire que cela s'inscrit dans l'idéologie de rupture de solidarité, de rupture de réciprocité entre l'islam d'un côté et les femmes de l'autre. La femme, c'est la moitié de l'homme dans l'héritage, dans les témoignages, et les quarts de l'homme dans le mariage. À l'égard de l'homme musulman, et c'est le thème de mon livre, la dignité de tout ça, et dans le rapport entre l'État. L'islam prend et ne donne rien. Pour ne pas vous ennuyer, je donne deux ou trois exemples. L'Arabie saoudite finance l'une des plus grandes mosquées, la plus prestigieuse, à Rome, cœur de la chrétienté. Et ne tolère pas la moindre chapelle sur son sol. Un pays qu'on considère comme ami et modéré. Parce que les mots n'ont plus aucun sens. Deuxième exemple. Le monde chrétien, le monde juif, le monde non-musulman s'est mobilisé pour sauver les Bosniaques. Le monde non-musulman s'est mobilisé pour sauver les musulmans à chaque fois qu'il y a un sinistre. Et aucun pays musulman, surtout parmi les pays riches, parmi l'Arabie saoudite, par exemple, n'a pas envoyé un colis de riz pour le Soudanais du Sud, pour le pauvre noir chrétien et animiste, qui ont été génocidés aussi entre 2 et 3 millions. Alors, l'islam, les musulmans, moi, je n'ai rien contre, comme je vais expliquer dans les livres. J'ai rendu hommage au libre penseur musulman. J'ai rendu hommage à un grand poète arabe que j'adore, le précurseur de Descartes, le précurseur de Schopenhauer, le précurseur de Dante, qui s'appelle Abu al-Ala al-Ma'arri. Oh, rien que ce nom me fait trembler. Si le musulman avait suivi cet homme, au lieu de suivre Mohammed, au lieu de suivre Abu Bakr et Omar, et la brute sanguinaire Khalid ibn al-Walid, elle serait maintenant une très grande puissance. Donc, il ne faut pas faire le mélange, effectivement. Tous les chrétiens ne sont pas persécutés, tous les musulmans ne sont pas des tortionnaires. Ça, c'est juste. Mais la vérité doit être dite, et elle sera dite. Bon, pour terminer, cette histoire aussi, qu'on a essayé par tout le monde d'expliquer la violence des jeunes. Bon, toujours on cherche à expliquer la violence. On ne comprend pas que la violence peut être gratuite, tout simplement. Ou le produit de l'ignorance bédouine. Le mot, l'ignorance bédouine, est d'un écrivain égyptien ex-musulman qui s'appelle Salah ad-Din Mohsen. Rien que pour ce mot, il a été condamné le 27 janvier 2001 à 3 ans de prison. Et je peux rassurer les autorités qui l'ont condamné que cet homme maintenant se trouve quelque part au monde en sécurité. Voilà, je vous remercie donc de me donner la parole en tant qu'auditeur humble de votre émission. Et maintenant, je vous parle en tant qu'auteur. Bon, en tant qu'auteur, je n'ai rien de spécial. J'ai tous les défauts de la terre, sauf la lâcheté.
Mais ça a commencé à devenir assez évident depuis un moment.
Et vous-même, c'est même essentiel.
Et vous-même, je n'ai rien à dire après votre présentation. Il y a le dit, il y a le non-dit dans les livres. Bon, le dit, c'est clair, j'ai pas mâché mes mots, j'ai rien inventé. Tout est fondé sur le Coran médinois. Tout est fondé sur le deuxième livre sacré de l'islam, le Bukhari, sur le plus grand chroniqueur de l'islam. J'ai démonté les discours apologétiques de l'islam. Tout le contre-vérité, les demi-vérités, comme cette année, l'année dernière, parce que je suis intervenu ici, et après j'ai dit quelques mots, tout de suite, la Ligue internationale mondiale islamique est intervenue, droit à la parole, droit de réponse. Ça aussi, il n'y a pas de réciprocité. Les deux personnes qui sont intervenues ici sont des ex-chrétiens. Elles sont venues dire « Nous sommes maintenant musulmans ». Il est impossible qu'un ex-musulman soit autorisé à venir dans un radio ou dans un journal pour dire « J'ai quitté, pourquoi j'ai quitté l'islam ?»
Ça, enfin, c'est il peut venir, il n'est pas sûr de repartir, c'est tout.
Voilà. « Man baddala dinu faqtulu » Quiconque change de religion, tuez-le. Et ça se trouve dans le deuxième livre sacré de l'islam, Bukhari. Dans mon édition à moi, parce que ça change de page. Deuxième partie, page 172. Donc, le dit, le copte, c'est le peuple le plus opprimé, le plus malheureux de la terre. Les deux jeunes qui sont venus ici, un médecin et l'autre informaticien, ils ont des coexistences pacifiques. Quel gros mensonge! Et il y avait 4 génocides en Égypte. Et ces deux messieurs, ils ont dit, Amr ibn al-As allait libérer l'Égypte. Connaissez-vous quelqu'un qui vient libérer un pays? Est-ce que Hitler voulait vous libérer du communisme? Amr ibn al-As était le fils d'une courtisane, d'après un grand écrivain arabe qui s'appelle Al-Jahiz. Amr ibn al-As était très hostile à Mohammed. Il était allé jusqu'en Éthiopie pour inciter le roi d'Éthiopie qui s'appelle Négus de chasser tous les compagnons de prophètes réfugiés chez lui. Amr ibn al-As ne s'est pas converti à l'islam qui est par opportunisme. Dans l'huitième année de l'Hégire, c'est-à-dire vers 630, et cet homme-là, quand il est intervenu en Égypte, il a tué hommes et femmes et enfants civils pour effrayer la population. Et ça, c'est cité dans la chronique des gens de Nekio qui étaient contemporains de l'invasion arabe d'Égypte. Amr ibn al-As a pris le parti de Muawiyah contre le Ali, qui est le gendre, qui est le cousin du prophète, et peut-être il était à l'origine de sa mort. Et c'est la raison pour laquelle les chiites exècrent le souvenir de cet homme. Amr ibn al-As est à l'origine de la mauvaise réputation que l'islam a en Égypte. Et c'est ça le bombe atomique qu'on le copte, le mot d'Akhil, intrus sur le sol de l'Égypte. Vous rendez compte, nous n'avons rien maintenant, nous sommes désarmés. Mais nous avons seulement ce mot, à l'islam, din d'Akhil à la Masr. L'islam est une religion intruse sur le sol de l'Égypte. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça fait mal.
Mais quand vous dites ça en Égypte, quand vous dites l'islam est une religion intruse, vous êtes condamné.
Pas si... Maintenant, les libres penseurs musulmans, comme Khayr Abdelkrim le dit, et il l'a dit avant de mourir, il a vécu entre 1130 et 2002, il faut lire tous ses ouvrages. Comme je l'ai déjà dit ici, il a réussi à démolir l'islam.
Et qu'en France, quand on dit que l'islam est une religion intruse en France, qui me paraît une évidence assez aveuglante.
Non, mais il faut distinguer les choses.
Oui, j'entends bien, mais vous êtes en France, on est poursuivi quand on fait ça.
Non, non, parce que vous dites les musulmans sont des envahisseurs de la France.
Non, non, pas du tout. Je dis l'islam n'a rien à faire en France parce que la tradition française, c'est la catholicité ou le christianisme. Et qu'on peut tolérer la présence de quelques islamistes ou de quelques musulmans, comme on peut tolérer la présence des juifs, mais ils ne font pas partie, comment dirais-je, du génie français, du génie religieux de la France.
Bon, il faut rapidement, je serai très bref. Il faut distinguer musulmans, islam, liberté religieuse et islam politique. Je serai très bref. Les musulmans, j'ai les meilleures relations demandées à mes étudiants musulmans. Je n'ai jamais rencontré un étudiant musulman qui soit fanatique. Alors, je suis obligé d'être objectif. Moi, écoutez, et j'ai déjà dit dans cette émission, et je le pense sincèrement, un musulman courageux est plus proche à mon cœur qu'un chrétien lâche. Il se porte souffle sur la lâcheté. J'ai cité Abu Dhal al-Ma'arri, qui était un libre penseur musulman. J'ai cité Khayr Abdelkrim, que j'étais reçu par lui et chez lui en Égypte en 1996. Juste, s'il vous plaît, vous me pardonnez, je vous montre, je vais faire une petite anecdote. Je suis venu en France, donc ici, je suis très content d'être français, je suis de lettres. Même quand quelqu'un me pose la question d'où vous sortez, quelle est votre origine, j'ai dit je viens de Dijon, ce qui est vrai. Parce que j'ai enseigné à Dijon. Alors donc, en 96, après 30 ans d'absence, je suis rentré en Égypte. Donc pendant 30 ans je suis resté en France, je n'arrive même pas à bouger, hein. Donc je suis implanté ici, j'ai retrouvé ici mes racines aussi et mes origines pharaoniques. Après tout, bon, alors donc nous étions, comme il y avait des attentats contre les touristes, et moi je suis allé avec un groupe français de 10 personnes très sympathiques. Alors nous étions escortés par les policiers. Un policier m'a dit, je vous pose une seule question. Dites-moi, vous qui avez vécu tant d'années en France, quelle est la différence entre la France et l'Égypte? Tout de suite, je sortis mes cartes d'identité. Voilà, je lui dis, voilà ma carte d'identité française, il n'y a pas le mot confession. Quelle est votre religion? Et regardez ma carte quand j'étais assistant à la faculté de droit. Elle est devant vous. Et c'est un document historique de Magdi Samizaki. Voilà, vous le conservez précieusement. Marquez mon nom et ensuite marquez Ad-Diana Masihi. Oui. Tout a été dit là-dessus. Donc, voilà, pour les musulmans. Le deuxième problème, l'islam. Eh bien, rien ne m'oblige, nous sommes dans un pays laïque, rien ne m'oblige à aimer une quelconque religion. Alors, je n'aime pas l'islam, c'est mon droit, on a le droit, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a quelques années, il y avait une... Guy Hambel avait écrit un bouquin, je ne sais pas où je trouve la transe. Voilà. Panoramique 2001, numéro 5. L'islam est-il le rappel à la libre critique? Et j'étais très étonné de ce chapitre. Pourquoi nous détestons l'islam? C'est marqué noir sur blanc. Et Marc Gabriel, qui est un ex-professeur à l'Azhar. Vous savez ce que c'est l'Azhar? Al-Azhar, c'est...
Non, l'université dans l'Azhar.
Bon, alors il y avait un garçon, libre maître de conférence là-bas, qui était musulman, qui est, bon, tout à coup, il a eu la révélation chrétienne, il est devenu chrétien, il a fiché le camp, parce que, on a commencé à la persécuter. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle l'Islam en des Jewish, il a dit, j'ai le bouquin chez moi, hate Islam, but love Muslims. Déteste, hate l'Islam, mais les musulmans. Donc, moi, je suis pas obligé. Par contre, la liberté religieuse, je suis voltairien. Voltairien était très sarcastique à l'égard de toutes les religions, mais il serait très fâché si on s'attaquait au temple, que ce soit juif ou chrétien ou musulman. Bon, alors reste maintenant à l'islam politique. Eh bien, c'est le dernier point. Je vais vous dire que la personne qui est en face de vous est Magdi Samizaki, est l'ennemi numéro un de l'islam politique, car l'islam politique, c'est trois choses. C'est le statut inférieur de la femme, c'est la démitude. C'est les statuts avilissants pires que la servitude. Si j'ai le temps, je pourrais dire tout ça en des mots. Et c'est aussi la lapidation. C'est aussi les châtiments corporels. Même Hitler n'a pas lapidé la femme adultère. Comparez Hitler, par exemple, avec Tamerlan, le Turc. Et je rends hommage aux Arabes maintenant parce que je participe dans des forums, c'est pas mon genre, mais je prends goût. Il y a des forums maintenant arabes libre penseurs. Je leur envoie des billets en français. Ils me demandent tout le temps d'écrire en arabe. Alors moi, je préfère écrire en français parce que la structure mentale, la manière de penser n'est pas la même. Mais je confirme ce qu'il a dit, madame. Nous sommes bien en direct aujourd'hui de 30 mars. Voilà, parce que c'est sorti au jour 30 mars dans un journal qui s'appelle Ilaf. Comment, dans un village qui s'appelle, je peux vous dire, c'est un journal arabe, même dirigé par un saoudite, libre penseur, qui se trouve à Londres, Qaryat Manqatin Muhafzat Samalout Bsaid Masr. C'était un village, dans un village en Égypte, où on n'autorise pas la construction des églises et où on peut tuer les gens, les chrétiens, impunément. Et c'est publié aujourd'hui à Elaf, c'est publié aussi dans le forum où je participe, qui s'appelle Nadel Fikr Arabi. Voilà. Donc, en deux mots, donc, je peux vous dire, ça se l'est dit, je peux vous parler pendant 2 heures, j'ai parlé 1000 pages, mais ce qui est important pour moi, le dit, c'est accessoire. Ce qui est principal, c'est le non-dit. Et c'est quoi le non-dit? Ce qui est arrivé à l'Égypte peut arriver à la France. Et c'est ça que je ne l'ai pas dit nulle part. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, je reviens parce qu'il y a une chose qui a failli m'échapper. Il a dit, oh, mais l'islam n'est pas chez lui en France. Bon, pour que les gens ne mélangent pas, c'est le prix, le tourne à la main. C'est pas ça le problème. Mais il faut désislamiser l'espace public. J'y tiens. Alors, si on a déchristianisé la France et l'Europe, il faut désislamiser l'espace public. Ça c'est la dernière paragraphe de mon livre. Donc, le nom dit.
Quand vous dites désislamiser l'espace public, vous voulez dire quoi précisément? C'est-à-dire rendre.
Je vais m'expliquer. Il faut traiter l'islam exact si on est ami des Arabes et des musulmans. Parce qu'en réalité, je dois vous dire, on les aime. Moi, je les aime en réalité. Beaucoup plus que vous ne pensiez. Parce que dès qu'on regarde les choses au premier degré, c'est un peu comme les grands Sioran, Émile Sioran, nous sommes là, on sera malheureux les uns les autres, mais il faut regarder les choses pas au premier degré. Si on voit le livre au premier degré, oh là là, mais qu'est-ce que cet homme est très anti-islamique. Non, je suis contre l'islam politique, et je le répète, ennemi numéro un, c'est-à-dire vous, Alexandre Delval, vous l'ajoutez à Ibn al-Warraq, vous l'ajoutez à Salman Rushdie, et vous multipliez par mille et millions, et ça ne sera pas encore Mahdi Sami Zaki. Ça pour l'islam politique, mais pas. Mais de l'autre côté, j'ai beaucoup d'affection pour les musulmans. Et le proverbe arabe dit, c'est l'ami as-sadiq huwa man sadaqak la man sadaqak. C'est-à-dire, le vrai ami, c'est celui qui est sincère avec vous, et non pas celui qui vous flatte. Or, nous sommes politiques, notre hiérarchie catholique flatte les musulmans et ne les aime pas. Ils veulent avoir le monopole de l'intelligence et de la puissance. Ils veulent que les musulmans soient médiocres, soient des arriérés. Et moi, j'ai dit non, il faut absolument, si vous voulez la paix dans le monde, il faut qu'elle arrive à notre niveau, le niveau des chrétiens et des juifs. Il faut dire que les musulmans sont en retard. Il y a des milliards d'années-lumière. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas dire, ah, vous êtes bien. Non, non, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Il y a dans l'islam politique des aspects qui sont inacceptables, inadmissibles et incompatibles avec le droit de l'homme. Donc, il ne faut pas infantiliser les musulmans. Où je veux en venir? Voilà la phrase principale. Il faut traiter l'islam exactement comme on traite le christianisme. Ni plus, ni moins. Et là, je me permets de vous dire, il faut que je pense à mon éditeur. Je dois le remercier, mon éditeur. Parce que, en Égypte, vous pouvez critiquer tant que vous voulez le christianisme et Jésus-Christ. Moi, je suis libre penseur, hein. Parce que les gens, quand ils voient, qu'est-ce que les chrétiens, ils disent, non, je suis libre penseur. Mais je suis profondément offensé quand les lâches puissent attaquer impunément Jésus-Christ, l'évangile, le christianisme, les chrétiens, et personne n'ose dire le moindre mot ou risquer la moindre réserve à l'égard de Mohammed, à l'égard du Coran, à l'égard de l'islam. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est sur la voie publique en Égypte.
Oui, j'entends bien, professeur, mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que, quand vous dites, je n'aime pas l'islam, mais j'aime les arabes...
Je n'ai pas l'islam politique.
Politique, oui, j'entends bien. Ouais. Mais une idée, un projet politique, il est porté par des hommes. Ouais. C'est un peu facile de dire, j'aime pas les idées, mais j'aime les hommes qui ont ces idées. Parce que derrière les idées, s'il n'y a pas d'hommes, les idées, elles meurent tout de suite. Quel est le problème de l'islam en France? Il se pose. Pourquoi? Il se pose parce qu'en France, il y a probablement 10 millions de musulmans, en réalité. Et là, ça devient quelque chose qui change la vie quotidienne des Français. S'il y avait quelques centaines de milliers de musulmans, ça pose aucun problème. D'abord, il y en a toujours eu. Et on a pu ou les intégrer, ou les vivre à leur côté sans grande difficulté. Les pieds noirs ont vécu sans grande difficulté aux côtés des musulmans algériens pendant des années et des années. Et il n'y a pas eu, il n'y avait pas d'antagonisme violent. Ouais. Maintenant, le problème, il est lié à deux choses. Enfin, j'ai l'impression, si je me trompe, dites-le moi. Mais il est lié d'une part au nombre, parce qu'il y a un moment où il faut bien arrêter. Parce que tout simplement, ça change le fond même de la population française. Et puis le deuxième, c'est la culture, les traditions, les références, les comportements. Quand vous dites, l'un des aspects de l'islam, c'est le statut de la femme, le statut d'infériorité de la femme. Mmh. Bon, ça c'est un discours, c'est un constat, mais c'est un constat qu'on peut poser comme ça en termes, de la conversation élégante, on dit oui, le statut de la femme en islam, il est difficile, ou il n'est pas le même qu'en Europe, voilà. Puis on a l'impression qu'on a fait le tour de la question. Mais le statut de la femme en islam, c'est une réalité vécue quotidiennement par des millions de femmes qui souffrent parce qu'elles sont traitées comme des sous-hommes, ou comme des sous-femmes, ou des sous-êtres humains. Et ça, c'est une réalité. C'est pas des idées qui les torturent, c'est bien des hommes qui les traitent comme des animaux, ou comme du bétail.
Vous savez, d'abord, je dois vous dire que il y a des musulmans qui s'intègrent, qui demandent que vivre en paix ici.
Ce que je viens de vous dire, c'est possible.
Et alors donc, ces personnes vont nous renforcer et non pas nous affaiblir.
Ça, c'est la grande question.
Voilà.
L'expérience que vous avez, vous, en Égypte, que vous avez vue en Égypte, c'est quand même pas une expérience de résistance des musulmans aux abus de l'islam pour défendre les chrétiens.
Oui, mais moi, j'y suis responsable aussi. Mais moi, je n'ai pas caché les aspects négatifs du christianisme. J'ai dit le christianisme a affaibli l'Égypte. L'histoire de l'Égypte est une histoire très simple. Il peut être résumé en une seule phrase. Le christianisme a affaibli l'Égypte et l'islam l'a achevé. Alors donc, si moi j'accepte d'être génocidé, parce que Jésus-Christ m'a dit, tendez l'autre jour, et la morale de résignation. Or, je retrouve malheureusement ça en France, c'est très dangereux. Alors, comment faire? Il faut accepter que l'islam soit critiqué et critiqué à fond. Que les gens connaissent les aspects négatifs de l'islam. L'aspect négatif de Mohammed, des prophètes et tout, et des Corans. Or, la télévision, par exemple ici, regardez la différence, par exemple. Quand on nous insulte dans la télévision égyptienne, on nous traite de kafir, tout ça. Il n'y a pas en Égypte quelqu'un comme Dominique Baudis pour modérer la situation. Et si dès que vous dites un seul mot contre l'islam, tout de suite, le CCA va vous rappeler à l'ordre. Alors là, ça doit exister. Les gens doivent croire une chose, que personne n'est plus fort que Zaki. Je crois qu'il y a un des meilleurs, que vous vous êtes rendu compte que Zaki, Magdi Sami Zaki, on n'a jamais vu quelqu'un plus fort que lui. Or, Zaki, on a réussi à le démolir. Donc c'est lui qui peut démolir les enfants, les descendants de Ramsès II, peut démolir les enfants et les descendants de Louis XIV. C'est ça le non-dit. Donc attention, attention. Donc c'est un processus de déislamisation progressive de la France, et après tout en coup, on sera. Il ne faut pas avoir peur de cesser intimidé par des terrorismes intellectuels.
Je peux dire un mot?
Bien sûr, docteur.
Très court. Simplement. Vous dites que le christianisme, c'est tendre l'autre joue. Je veux bien, mais c'est aussi dire la vérité. Et c'est parfois beaucoup plus difficile de dire la vérité que de tendre l'autre joue. Moi, je crois que ce qui fait notre force, c'est précisément la vérité. Et ça, c'est ce que vous faites. Mais on ne doit pas oublier que le Christ a dit, je suis le... il n'a pas dit, je t'en la joue, tout ça. Mais il a dit, je suis la vérité et la vie.
Le chemin, la vérité
et la vie. Alors ça,
docteur, il n'a pas dit, si on gifle sur un jeu droit, je tends la joue gauche, il a dit, si on vous gifle, tendez l'autre joue. C'est un conseil qui nous est donné à nous.
Oui, voilà. Oui.
mais il faut bien analyser le sens de ce conseil.
C'est ce qu'il a fait aussi, hein. Il s'est laissé crucifier.
Oui, non, c'est différent.
Enfin, il a dit la vérité.
Au moment de la passion. Mais en tout cas, ça c'est un... Sur le côté affaiblissant ou émollient du christianisme, je ne partage pas du tout votre analyse, mais je ne suis pas là pour donner mon opinion, je suis là pour écouter la vôtre, ce qui est plus intéressant. Et je crois que c'est une erreur très très souvent commise que de dire que le christianisme est une religion émolliente. C'est au contraire une religion de force extraordinaire. Mais simplement qui ne met pas la résistance et la force au stade où les primitifs le font. C'est pas en montrant ses muscles, forcément. Il y a autre chose. Et effectivement, comme le dit le docteur, le principe fondamental, c'est la défense de la vérité, c'est l'affirmation et la proclamation de la vérité. Et ça, il faut beaucoup plus de courage que pour aller rouler les mécaniques devant une bande de voyous et se friter avec eux.
Je dois vous dire une chose, monsieur, avec vous, je viens de faire une grande découverte sur moi-même. Je suis chrétien sans le savoir, alors. Puisque je témoigne, je fais la vérité et tout ça.
Vous n'en étiez pas aperçu, en fait.
Oui.
Les hommes sont beaucoup de choses sans le savoir.
Oui. Mais le problème, maintenant, ils se laissent intimider par quelqu'un qui vous dit, monsieur. D'abord, il y a une très grosse force d'intimidation dans le pays. Autodestruction massive dans le pays. On veut se autodétruire, je ne sais pas ce qui nous arrive. Alors moi, j'ai bon, c'est amusant, bon moment, hein, de nous critiquer, de cracher sur l'Occident. Bon, c'est amusant, bon. Mais arrive un moment, on dit stop. Il y a quand même l'Occident, c'est quoi l'Occident? L'Occident, c'est la Renaissance, c'est la Réforme, c'est la Révolution française. On ne va pas laisser tout ça disparaître.
En ce qui concerne la Réforme et la Révolution, je serais assez d'accord pour qu'on passe à autre chose.
Bon, mais je ne parle pas des aspects négatifs des choses. Je parle quand même, il y a quelques mouvements. Bon, bref. Alors, donc, il y a une grande force de destruction dans les pays. On veut disparaître, je ne sais pas quel malin plaisir. Bon, alors je voudrais vous dire quelque chose. Ça prend l'intimidation, ça prend plusieurs aspects. D'abord, on vous traite tout de suite d'islamophobe. Et on sent. Eh bien, je réponds à tout de suite. J'ai dit cette chose n'impressionne pas les nationalistes belges, estimant que il est préférable d'être islamophobe aujourd'hui et d'être démis demain. Parce que vous ne savez pas, vous, moi, j'ai expliqué dans le livre, que la démitude, c'est pire que la servitude. C'est-à-dire, l'islam, on a dit ici, les meilleures mensongères, que l'islam a émancipé l'esclavage. Tout ça, c'est faux. J'ai répondu, bien sûr, je n'ai pas oublié les quelques versets qui incitaient à libérer les esclaves. Mais Mohammed lui-même était esclavagiste. Il a mis en esclavage les juifs de Banu Quraïza. Il a même mis en esclavage des Arabes, alors qu'il est interdit à Rome de mettre en esclavage un citoyen romain. Et l'islam, c'est la seule religion au monde qui admet des relations sexuelles avec des esclaves concubines sans restriction de nombre. Eh bien, je ne rentre pas dans le détail. L'islam, les musulmans étaient, les Arabes, les négriers, les Jabalais, tout ça étaient aussi féroces, sinon plus féroces que les autres. J'ai consacré un long chapitre là-dessus sur la course, comment ils ont kidnappé les Européens en Algérie, tout ça. Mais si féroce que soit l'esclavage en islam, je vous donne un conseil, monsieur. Si jamais vous êtes kidnappé en Arabie, et on vous donne le choix entre être esclave chez eux ou être démis, je vous conseille, voilà, docteur Zaki, en droit, vous donne une recette, une ordonnance. N'hésitez pas de choisir d'être esclave. Parce que, vous savez pourquoi je vais vous donner
Oui, donnez-moi
Voilà, parce que l'esclave.
Le motif.
Il y a plusieurs motifs que j'ai donné dans les livres. Parce que, le motif principal qui est votre maître. D'abord, être esclave, c'est un bien.
Oui. Donc vous êtes protégé.
Ah, écoutez, vous touchez pas à mon pote, vous touchez pas à mon esclave. Hein. Ouais, c'est un bien, c'est un bien précieux.
C'est une propriété.
Oui. Mais c'est un bien, ça. Tandis que les démis.
Un beau cheval.
La différence entre démis et res nullius, c'est-à-dire un objet sans valeur et mince. Et il y avait un système de restrictions, de conditions humiliantes. Et si vous violez une seule règle, vous êtes hors de la loi, vous êtes res nullius, n'importe qui peut vous capturer, vous tuer. Il n'y a pas ni responsabilité civile, ni responsabilité pénale. Si on dit aux Arabes, quiconque change de religion, qu'on le tue, on a la gâchette facile en islam. Il y a 174 fois que l'islam parle de tuer. Qatal, qtulouhum, qtulouhum, haïsu saqaitfoum, sieg haïl.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, 95.6.
Oui. Non. Parce que quelqu'un m'a dit, mais Hitler, c'est un chrétien. Non, monsieur, Hitler méprisait le christianisme. Pour deux raisons. Parce qu'il pensait que le christianisme, c'est un sous-produit juif. Et aussi, parce que le christianisme tend l'autre jour. C'est pas Hitler qui tendait l'autre jour. Mais c'était un falou, Hitler, comparé à Tamerlan, les Turcs. Et je vous renvoie à Albert Speer, au cœur du Troisième Reich, chapitre 7. Et vous verrez l'admiration d'Hitler pour l'islam.
Oui, d'ailleurs, il n'est pas le seul.
Il y a eu des alliances, d'ailleurs.
Oui, il y a eu des alliances. Voilà, oui.
Il y a eu il y a même eu des unités, des unités de SS qui étaient constituées de, musulmans. Mais Napoléon aussi aimait bien les musulmans.
Aimait bien les musulmans, mais il n'était pas sincère. C'est lui qui aimait plutôt.
Il n'était jamais sincère, Napoléon.
Jamais. Et François Ier.
Et François.
Toulon a été donné aux Turcs.
Oui, c'était dans mon livre tout ça. L'hibernage. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rendre hommage aux Corses.
Ça, vous pouvez.
Ah oui, parce que j'ai dit à mes étudiants d'ailleurs, dites jamais Corse courageux, c'est un pléonasme.
Ah
1571, il y avait la bataille de la Bande. Parce que les Turcs ont menacé l'Europe plusieurs fois. À Vienne, vous connaissez, 1528, et puis la Bande, et puis en 1683.
Les Français n'étaient pas les Bandes, d'ailleurs.
Par contre, les Corses y étaient. Oui, les Corses ont protégé les portes de l'Occident. Alors donc, Alors donc, je reviens à l'histoire de l'esclavage. Ne choisissez jamais d'être esclave en islam. Jamais d'être démis en islam. Qu'est-ce que je raconte là? Ne choisissez jamais.
La dimitude. L'esclavage est préférable à la dimitude.
Oui, choisissez plutôt d'être esclave que d'être démis.
Oui, parce qu'on existe au moins. Oui.
Parce que c'est un objet précieux.
Voilà.
Vous vous rendez compte? Un bien. Et surtout, il y a des gens qui ne savent pas que Le maître peut dire à son esclave, mon frère, ya akhi. Et savez-vous quel est le résultat qui arrive quand il dit jamais à son esclave, mon frère, l'esclave est immédiatement libéré.
Franchi, oui.
Franchi. Alors qu'il est interdit à un musulman de dire à un non-musulman, akhi, mon frère, car je suis un dîme, je suis un kafir, je suis un une impureté, untermenschen. Voilà. Et on te ramène chez tout ça, c'est des, j'ai rien inventé. Ça, il dit aussi, nous sommes impuretés, c'est le Khomeini. Et même Khomeini, il dit dans son livre.
J'ai publié récemment un article qui résume, enfin qui citait dans des textes où il est dit, et parmi les choses impures, il y a les excréments, l'urine du chameau notamment, la femme non musulmane et l'homme non musulman.
Hein, c'est
à peu près du statut de l'urine de chameau.
Je ne me lasserai pas de vous dire que je rends hommage encore une fois à mon éditeur. Est-ce que vous avez entendu parler pourquoi je ne suis pas musulman d'Ibn Warraq?
Oui, bien sûr.
Personne ne voulait le publier en France. Cela a été publié en Suisse. Il a mis 2-3 ans pour le publier. Et un ouvrage comme ça, quel est l'éditeur qui acceptera de prendre le risque où je fais le procès de l'islam pour dire les choses sans ménagement? Et donc, je suis content. Pas pour moi, je vous assure. Croyez-moi sur parole, je suis très franc. Je suis content que j'ai trouvé en France un éditeur courageux.
Ah, ben voilà. Qui, comme par hasard, est un Corse. Mais enfin, ça, c'est une autre.
Ah bon?
Monsieur Zaki, je voudrais apporter un supplément d'information à nos auditeurs, c'est que le ton que vous avez pour parler à ce micro tranche étonnamment avec le ton que vous avez pour écrire. C'est-à-dire, je voudrais pas qu'ils croient que ce que vous avez écrit, c'est un pamphlet. C'est un travail d'historien, mais c'est un travail d'historien engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un livre tout à fait passionnant à lire, parce qu'on découvre l'histoire du peuple copte. On découvre pratiquement un millénaire et demi de souffrance, hein. En tout cas, un bon millénaire de souffrance. Non, un millénaire et demi, je dis bien.
Ah, oui.
Et puis on découvre, alors, mais d'une façon très détaillée, ce que monsieur Zaki vient de nous expliquer, c'est-à-dire ce que c'est que la situation du Dhimmi. Ouais. Et je vous assure que c'est vraiment le moment de lire ce livre, parce que c'est le moment de réfléchir.
C'est ce qui nous guette.
Pourquoi faut-il réfléchir à cette question? Et je pense que un bon motif, c'est qu'on pourrait demander éventuellement aux gens qui dirigent ce pays à l'heure actuelle, c'est-à-dire à nos honnêtes députés, avant de passer à la moulinette, ce qui leur arrivera un jour ou l'autre, de voter une loi restaurant l'esclavage en France. Comme ça, au moins, on aura le choix entre le statut d'esclave. On ne sera pas forcément dhimmi. On pourra dire,
on pourrait être
finalement,
chose,
on préfère être esclave.
On pourrait être quelque chose.
Donc voilà, ce que je propose comme projet de loi intéressant et protecteur pour les mois à venir, c'est un projet de loi qui rétablirait l'esclavage.
Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses extraordinaires et paradoxales? Mohammed, qui est un homme puissant. Alors, il était d'abord humble quand il était pauvre. Si on croit, bien entendu, je ne sais pas si cet homme a existé ou pas. Et moi, je me dis,
en tout cas, il avait un cheval intéressant.
Moi, en tout cas, je me fonde sur les grands chroniqueurs musulmans qui disent que cet homme a existé, qu'il avait deux périodes, mécoise et médinoise. Cet homme a fini par être tellement puissant qu'il est devenu un co-souverain du monde. Oui. Il s'est accordé des droits qu'aucun César, aucun Bonaparte, parce qu'on n'a eu, et est devenu un nouveau dieu. Parce que vous pouvez insulter Allah, c'est pas si grave. Mais essayez d'insulter Mohammed. Et même au-dessus de Allah est devenu marionnette sallallahu alayhi wa sallam. Dieu prie pour le salut de l'âme de son prophète. Où je veux en venir? Cet homme est très puissant, donc il pouvait tout faire. Eh bien, cet homme a préféré abolir l'adoption, parce qu'il voulait se marier avec la femme de son fils adoptif, Zayd. Il a eu la force, vous voyez le paradoxe extraordinaire, hein. Il a aboli l'adoption, mais il n'a pas aboli l'esclavage. Alors, j'aimerais savoir, quand on nous dit l'islam, din salih, le kul zaman wa makan, c'est-à-dire c'est une religion valable, universelle pour tous les pays, toute l'époque. Alors, est-ce que l'abolition de l'adoption est une règle universelle qui mérite d'être respectée?
Voilà, je vous remercie, M. Zaki, d'être venu nous donner la voix du peuple. Oh, non, on va poser des questions, bien sûr, mais je veux d'abord remercier M. Zaki d'être venu nous donner ce témoignage, qui est un témoignage très, très fort, je veux dire.
Et très intéressant.
Et très intéressant.
Dans l'esclavage comme...
Et puis, je regrette, comme d'habitude, qu'on n'ait pas la télévision, parce que ça vous a empêché de voir le flamboiement qui sort des yeux. Vous savez, dans la littérature, on dit « et ses yeux flamboyèrent ». Moi, j'avais jamais vu ça. C'est très rare, hein, bon. Et là, d'un seul coup, on voyait littéralement des éclairs qui sortaient de ses yeux.
Mais pas des éclairs agressifs, des éclairs de passion chaleureuse. Je crois que M. Zaki cherche à quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde, les musulmans et les autres.
Ah, c'est oui, pas c'est du tout de la colère, non, pas du tout. Au contraire, c'est de l'apaisement.
Alors, ce livre, je le dis, il fait 1000 pages, près de 1000 pages, hein, oui, je vais dire très exactement, il fait 987 pages. Oui. Il est paru aux éditions de Paris, avec une superbe icône. Qui est le saint c'est le Christ qui est en couverture. Bien sûr que c'est le saint, c'est le Christ. Avec le livre fermé. Et non pas le livre ouvert. Donc, c'est pas le Christ enseignant, vous voyez. Vous saviez ça? Le voltairien de service ne savait pas ça.
je crois que
la couverture est très belle.
Non, il y a une différence fondamentale. D'ailleurs, elle a été faite par le grand juriste, l'un des plus grands juristes français. Ce nom, le plus grand juriste de tout le temps, s'appelle Jean Carbonnier. C'est un français. Bon, c'est un homme protestant.
Nobody's perfect.
Et remarquable à tout point de vue, il nous a quittés il y a quelque temps. Eh bien, lui, malgré sa discrétion, ne pouvait pas s'empêcher, c'est un homme très timide, malgré sa puissance et une très grosse intelligence. Mais quand même, dans l'introduction à l'étude de droit, il a comparé avec beaucoup de doigté et avec beaucoup de discrétion l'évangile et le Coran. À la différence du Coran, l'évangile, la parole de Dieu, ne s'enferme pas dans un livre. C'est par allusion à ce que vous avez dit, que c'est un livre fermé. Non, l'évangile n'est jamais fermé.
Non, le livre que le Christ porte là est un livre fermé. L'évangile n'est pas un livre fermé d'abord.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe. Merci, monsieur Zaki. C'est quand même merveilleux parce que voilà, cet homme qui est un copte, donc qui appartient vraiment à une culture, ne le prenez pas mal, mais extraordinairement exotique pour nous, a complètement intégré tout l'esprit français, toute la finesse du discours.
Aucun raisonnement cartésien.
C'est très flatteur de vous entendre parler pour un Français, parce qu'on se dit, voilà, donc c'est, on arrive quand même à... On a une culture qui est universelle, et vous en êtes un témoignage tout à fait impressionnant.
Mais le copte, quand vous parlez le français, monsieur, vous parlez toutes les langues, y compris le copte. Le mot, par exemple, kyrollos, c'est-à-dire l'équivalent de Cyril, signifie précieux. Eh bien, ce mot copte est devenu Cyril, donc, et après est devenu caro en italien, cher, chéri et Charles.
Ah oui.
Ah oui. Oui.
Charles et Carole plutôt.
Oui. Les mots chimiques.
Donc mon fils s'appelle un nom copte. Il sera content de le savoir.
Non, vous les appelez.
Kirill.
Vous les appelez. Il y a beaucoup de pronoms coptes en France. Bacom, qui signifie aigle.
C'est pas très couru, Pacôme, en ce moment.
On a tort.
Oui, on va essayer de le restaurer. Si j'ai un enfant, je l'appellerai Pacôme, c'est le problème.
Merci.
Il y a Côme et Pacôme, ce qui fait...
Évidemment, il n'y a pas Côme.
Des questions ou des réflexions?
Si, une question. Un auditeur voudrait savoir quel est le rapport entre les Coptes d'Égypte et les Coptes d'Abyssinie?
D'Éthiopie. Et bon, alors donc, les Coptes ont évangélisé beaucoup de pays, jusqu'en Suisse, hein. Jusqu'en Suisse, et donc ils ont évangélisé l'Éthiopie, comme le Soudan. Tout le Soudan a été chrétien, Et tout ça. Alors bon, le Soudan est devenu, l'Anouba était chrétienne, le Soudan était chrétien, et tout ça, et puis disparaît petit à petit. Mais le christianisme arrive aujourd'hui au Soudan, par le sud, grâce aux catholiques et grâce aux protestants. Quant à l'Éthiopie, c'était la même église. L'Éthiopie suit Alexandrie, sauf dans les grandes périodes de persécution que j'ai citées, là, le patriarche d'Égypte écrit à son collègue, le patriarche de Rome, et je dis, je ne peux rien faire à mes frères éthiopiens, je vous en prie, essayez de vous occuper de leurs besoins spirituels. Et maintenant, les deux églises sont séparées.
Dans les premiers temps de l'islam, dhimmi signifiait protection contre l'impôt abusif, ce qui explique pourquoi tant de chrétiens se sont convertis lors des invasions des pays du Maghreb par les cavaliers arabes. L'Église catholique, elle, encourage les fidèles à payer scrupuleusement leurs impôts. Le retour à l'islam primitif serait donc un moyen idéal pour les Français désireux de se soustraire à la pression fiscale exercée par la République laïque. Qu'en pensez-vous?
Ça, c'est de la pure propagande. Ça, c'est pas des gens.
Enfin, il en faudrait non, plus pour que ça pour me convaincre de me convertir à l'islam.
Si vous mentez, au moins, respectez l'intelligence des gens. Parce que, vous savez, comme les gens qui sont venus ici, au moins, des joints devant le micro de Jean-Luc pour avoir le droit de réponse, les ex-chrétiens qui disent qu'ils sont émancipés par l'islam et tout ça. Ils ont dit, mais la jizya, cette taxe infamante prévue dans le Coran contre les démis, ce n'est qu'un impôt. Madame, quand vous payez votre impôt, personne ne vous donne des gifles. Personne ne cherche à vous humilier. Moi, chaque fois que je vais aller payer le jizya, tout le monde doit aller payer le jizya, même le patriarche. Le patriarche ne peut pas déléguer quelqu'un, parce qu'il faut que là, il lui-même paye, lui-même, pour qu'il reçoive le soufflet sur la nuque. Et même en Espagne, parce qu'on dit l'impérialisme occidental, les croisades et tout ça, et l'inquisition. L'inquisition, c'est jusqu'aujourd'hui à l'islam. Je vais vous embêter ça. L'inquisition, les croisades, c'était juste une petite deux siècles, pas tous les siècles. Et bon, alors donc, c'est cette histoire. Il y a une différence fondamentale entre tribut, entre taxe, entre impôt et le jizya. Parce que si c'était un jizya, c'était une zakat, ou si c'était un impôt ordinaire, je peux vous donner un mandat pour payer à ma place. Vous, le musulman, vous pouvez me cautionner. Or, c'est interdit. Parce que si je ne paye pas, vous me payez à ma place cette taxe d'humiliation qui est destinée à châtier et à humilier les non-musulmans. Et j'ai développé toutes les différences entre les impôts et nous étions asphyxiés par les impôts en Égypte, c'était la démitude, c'est une sorte de dégradation civique et aussi surexploitation économique.
Les parias, quoi, ça.
le paria, non, parce que
c'est bien pire que le paria.
Oui, c'est voilà. Pire.
Le peuple
intouchable.
Non, intouchable parce que les Coptes, je défie quiconque montre un seul peuple au monde qui est plus malheureux que plus opprimé. Parce que les parias aujourd'hui, c'est en Inde, et les parias aujourd'hui peuvent espérer quelque chose de l'Inde qui est un pays démocratique.
Ah oui, tandis que...
Écoute, c'est dans le Coran, c'est marqué. C'est parole révélée.
C'est la loi.
C'est la loi divine, en plus. Alors, il est grand temps de dire, non, monsieur, ce n'est ni rien de l'Inde. C'est des paroles, c'est le produit de l'ignorance bédouine. Il faut les dire. C'est en cela qu'il faut vider l'islam politique de son vénin. Il faut que les hommes politiques comprennent ça, pas seulement en France, mais en Angleterre. Parce que le problème, c'est qu'ils se croient. Voilà, vous avez toutes les qualités, en France, en Angleterre. Seulement, vous avez un seul défaut. Vous croyez que vous êtes plus fort que moi. Or, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas plus fort que Zaki, ni les pieds de Pharaon. On les a démolis. Votre tour viendra. C'est une question de temps.
Bon, on attendra.
Un auditeur donnait une petite précision. Copte est une abréviation de Ekeiptos, qui signifie égyptien. Donc, Ekeiptos devient copte. Les Égyptiens étaient chrétiens jusqu'au 8e siècle. Le grand poète, demande une dame, n'était pas un arabe, mais un persan islamisé de force.
Le
grand poète dont vous avez parlé,
Abdallah al-Ma'ri.
Voilà.
Abdallah al-Ma'ri, c'est un poète arabe, écrit en arabe, et charmant, profond, je l'adore, sans réserve.
Mais c'était pas un persan islamisé.
Il y a beaucoup, parce que la civilisation islamique, dont on parle souvent, Val Jebel Qur'an, bon, je peux en parler, tout ça, belle blague. Je suis pas à pas la civilisation islamique.
c'est le produit de tous les pays conquis, et l'histoire de l'algorithme, l'al-Khwarizmi qui a inventé l'algèbre, tout ça, ce n'est que, après, ce n'est que résumé des signes de Hind. Et on a dit, les Arabes, quand on introduit les zéros, c'est faux. Il faut dire, oui, durant, que les zéros, c'est une invention des Perses. Et vous permettez la rectification, les Coptes ne sont pas chrétiens jusqu'au 8e siècle, ils sont chrétiens jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, c'est comme les pyramides d'Égypte. Est-ce que vous pouvez extirper les pyramides d'Égypte? C'est le noyau dur du pays. Et je dois vous dire que, malgré tout, je dois avouer, malgré tout, que je suis un peu de mauvaise foi.
Parce que,
je reconnais. J'ai déjà dit au début, j'ai toutes les défauts de la terre.
Monsieur le professeur, le copte, ça ajoute à votre charme.
je dois vous dire que le copte, je sais pas comment on arrivera à vraiment les détruire. C'est-à-dire, il y a un nœud, comme dit monsieur. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que cette foi extraordinaire qu'il arrive à subir, c'est même pire que dans des grandes camps de concentration, à toutes sortes d'humiliations jusqu'aujourd'hui. Un seul exemple, monsieur, rapidement. Al-Kushah. Il y avait un pogrom contre le copte en Kushah. Et le pouvoir politique, les pouvoirs exécutifs présidés par notre cher Moubarak n'a pas condamné publiquement ce pogrom. Alors qu'en France, il y avait quelque chose, tout de suite, Mitterrand se rend et jette une fleur. Là, on a boussé un pauvre maghrébin dans la flotte. Le pouvoir législatif fait tout pour bloquer toute enquête sur le sujet. La Cour de cassation, dénie de justice flagrante, on ne punit pas. Oui. C'est ça le dîner de justice, c'est-à-dire un musulman peut témoigner, ça c'est dans le droit musulman, parce que quand même j'étudie le droit musulman dans la faculté du droit du Caire, je connais mon droit. Eh bien, selon le droit musulman et charia, le témoignage d'un musulman est recevable contre un chrétien, mais en sens inverse non, il n'y a pas de réciprocité.
Oui. Bien sûr. Bien, mais je vous remercie beaucoup, je répète le titre de votre livre, « Histoire des Coptes d'Égypte ». Paru aux éditions de Paris. L'auteur s'appelle Monsieur Zaki, professeur Zaki. Le prénom, c'est Magdi Sami. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit Sabri. Je devais être sous, encore une fois. Et ce livre vaut 49 euros.
Sous ton balcon.
Mais il les vaut largement. Je ne vous le cacherai pas parce que il y a beaucoup d'informations et beaucoup de considérations qui nous seront très utiles. J'espère pas trop tôt, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Merci, professeur. Docteur,
j'ai juste...
Vous avez 5 minutes, comme vous l'avez dit, pour nous apporter la bonne nouvelle.
Voilà, ceci pour vous dire, avant de vous donner les rendez-vous...
Ça vous a intéressé?
Ah, beaucoup. Moi, j'étais très, très intéressé. C'est brûlant, en fait. C'est brûlant, parce que c'est d'une actualité...
C'est le mot.
Très remarquable, oui. Voilà, naturellement. Alors... justement, à propos les dangers qui guettent la France et l'islam, mais c'est bien plus cette pourriture qui nous entoure. Et alors, juste avant de dire quelques mots sur les rendez-vous, c'est au sujet de la Constitution qui nous est présentée. Et juste un mot sur la Charte des droits fondamentaux qui a été proclamée, c'est le mot qui est réservé, en décembre de l'an 2000, par les chefs des États membres de l'Union européenne. Or, cette charte a été reprise donc par ce projet de constitution, et article 262 dit ceci, très intéressant pour nous, le titre c'est « Droit à la vie », petit 1 c'est très court, petit 1, toute personne a droit à la vie, petit 2, nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Mais c'est une merveille, je dirais, point, terminé pour cet article-là. Alors j'ai dit, mais c'est fantastique, c'est remarquable. La seule chose, évidemment, c'est que jamais on a autant tué. Et alors c'est là où cet article est luciférien. Comme il y en a, comme si je vous citais les autres, vous verrez que c'est incroyable. Tous ces articles qui se suivent dans la Charte des droits fondamentaux, c'est le mensonge, soit par omission, soit au contraire, ça donc mensonge par omission, c'est l'hypocrisie, soit par cynisme, ils disent exactement le contraire de ce qui se passe. Alors je développerai.
Si vous me permettez d'apporter de l'eau à votre moulin. Il y a un marquis qui nous envoie un message, c'est pas le nôtre, c'est un autre marquis, qui dit, dans le cadre ovale du prochain référendum, j'ai appris au cours d'une écoute radiophonique courtoise les choses suivantes. le géranium cendré, ainsi que la grenouille rieuse, fait partie des espèces protégées. 6 mois de prison avec sursis en cas de destruction. De plus, nous pouvons être poursuivis pour tentative de meurtre si nous avions l'intention de tuer une personne déjà morte. Alors que l'enfant qui se trouve encore dans le sein de la mère est qualifié de fœtus, qu'au travers de ce statut, sa personne n'est pas encore reconnue, et vous connaissez la suite, hélas. Alors si vous voulez tuer quelqu'un, il vaut mieux tuer un enfant à naître qu'une grenouille tueuse, rieuse, parce que c'est beaucoup moins cher.
Dans l'émission, on expliquait aussi que si on veut tuer son chien, on a des ennuis.
On accuse de la
Exactement. Et alors là, comment dire, si l'on... le droit à la vie... Donc, il proclame le droit à la vie, n'est-ce pas? Mais ce droit à la vie cache en fait le droit à l'avortement. Et ils ne disent pas un mot. Dans toute la Constitution, il n'y a pas un mot sur l'avortement. Alors que la plupart des États membres font l'avortement. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que pour eux, avorter, ce n'est pas tuer. L'enfant n'est pas une personne. Ce qui est quand même fort le café, étant donné qu'on nie à ce moment-là son humanité, son identité. Il n'est pas une personne, ce n'est pas un être humain. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, le malheureux. Et voilà. Et alors on peut le... Enfin, je trouve que là, nous touchons à l'hypocrisie la plus totale. On ne dit pas... on dit pas ce qui est. Le droit à la vie cache le droit à l'avortement. Alors il y a aussi d'autres articles, bien entendu.
Donc vous êtes contre.
Ah, je vote à fond, mais je pense qu'elle est luciférienne. Je pense que cette relisez je les ai lus, là, nous faisons un article, nous faisons des affiches, je demande aussi, alors si les auditeurs veulent bien l'entendre, nous cherchons de l'argent pour les tracts, nous cherchons aussi des personnes pour afficher, etc. Nous sommes à mort, si je puis dire, contre cette constitution qui est, mais proprement luciférienne. Vous lirez le tract, vous verrez, il est motivé. Par exemple, le 263, par exemple, qui suit juste, eh bien, il dit interdiction de l'eugénisme. Ah, merveilleux. Vous voyez, ils disent que des merveilles. Interdiction de l'eugénisme. Mais attention, c'est qu'on tue plus de 95% des Mongoliens en France, des trisomiques 21. En plus, vous savez que vous avez tout à fait le droit de faire un tri embryonnaire avec la fécondation in vitro. C'est-à-dire que vous récoltez des ovules, vous les fécondez avec spermatozoïdes, vous les mettez dans un tube, et puis là, vous choisissez le plus favorable. Enfin, vous faites un tri, hein, naturellement. C'est un cataclysme que de mettre au monde un enfant, enfant qui a une malformation, on le voit bien avec l'affaire, comment s'appelle-t-il déjà, de ce garçon, le pauvre, on l'a laissé vivre, etc.
Vincent Imbert,
je pensais à...
Ça a donné l'objet d'un arrêt.
C'est affreux. Ne pas dire un mot sur l'avortement alors que jamais on a autant tué dans l'histoire de l'humanité, mais jamais. Et n'est-ce pas, il n'y a pas un mot là-dessus. Au contraire, on célèbre le respect de la vie.
On croirait que ça a été écrit par un politicien menteur, cette constitution.
Alors, curieux, voilà. En 46, le droit à la vie, bon, ça va. En 48, c'est ça, je n'en veux pas à l'ONU de 48 qui parle du respect de la vie. Mais là, ça devient, je dirais, parler du respect de la vie à l'heure où nous vivons, mais c'est de la provocation. Puisqu'on tue, je dirais, à tour de bras. Ça, naturellement, tout le monde le sait. On tue 2 ou 3 000 enfants par jour en France. Alors qu'on ne vienne pas nous parler du droit à la vie.
C'était l'arrêt Pérus.
C'est pas possible. C'est l'arrêt Pérus, voilà, c'est ça. Voilà,
docteur, je suis obligé de vous demander. Enfin, voilà. Nous donner les dates de convocation.
Voilà. Mais je vous en prie, on réclame pas trop souvent de l'argent, vous avez remarqué. Mais là, vraiment, on en a besoin pour répartir nos tracts, pour le diffuser. Nous voulons faire des groupes avec des affiches et tout ça. Aidez-nous, nous ferons ça avec Renaissance catholique, avec Laissez-les vivre, avec l'UNEC de Vermeline, tout ça. Enfin, nous ne serons pas tout seuls, mais enfin, voilà, il faut nous aider. Alors, nous avons 2 manifestations, l'une qui est toute proche. Le 9 avril, c'est à Versailles, ça fait un succès la dernière fois. C'est
à
la naissance de l'impasse des gendarmes, c'est ça. Nous étions assez nombreux. Ce qui est assez curieux, il n'y avait personne en face. Alors, j'étais très étonné. On était tranquille. On était une vingtaine, je pense. Et voilà. Alors, là, c'est le matin. C'est à 11h45, impasse des gendarmes, rue des États Généraux, avenue de Paris, tout près de la mairie.
Le
9. Ça, c'est pas compliqué. Ça dure 1h, 1h30. Ça, c'est le 9, samedi, donc, à 10h45, 11h15, impasse des gendarmes, à l'entrée de l'impasse des gendarmes. Au fond, ce sera un peu triste, évidemment. Mais enfin, nous sommes tout près de notre âme désarmée, c'est curieux de penser qu'elle est mêlée à ça directement, en quelque sorte. Et alors, la deuxième manifestation a lieu, alors comme d'habitude, à la Bourse, à 14h30, ce sera le samedi suivant, 14h30, métro Bourse, à Paris donc.
La Bourse et la vie.
La Bourse ou la vie, oui, c'est vrai, la vie, mon Dieu. Vous savez que le planning siège national se trouve là au numéro 10, nous sommes à peu près au numéro, je ne saurais pas exactement dire, numéro 30.
Alors il faut vite nous donner la date parce qu'on on est en train de dépasser le temps qui nous est imparti.
Voilà.
Alors la date c'est...
Alors la date, donc la première c'est le 9 avril, la deuxième c'est le 16 avril. C'est tous les deux un samedi, la première fois c'est le matin à Versailles, la deuxième fois c'est en début d'après-midi à Paris.
Merci docteur.
Merci, et voici les tracts.
Vous y êtes, Victoria, mon petit. Il faut voir la petite lumière rouge.
Ah, ben je l'ai cachée parce qu'elle me fait mal à l'œil. Voulez-vous me cacher la lumière rouge? Oui. L'autre, il s'en va, il peut aller. Alors, on nous demande de répéter, plusieurs auditeurs nous demandent de répéter les références du livre sur Chirac. Jacques Chirac, Une éternelle jeunesse, journal intime de Marguerite Basset, présenté par Michel Basset, qui est sorti le 10 février. Voilà. Et puis, le livre aussi de notre invité, c'était Histoire des Coptes d'Égypte de Magdi Sami Zaki, édition de Paris, 13 rue Saint-Honoré à Versailles, 990 pages, 49 euros. Donc il signera samedi prochain, 2 avril, de 15h à 18h30, l'Histoire des Coptes d'Égypte à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Métro Saint-Michel. Le samedi 2 avril, Jean-Paul Angelelli signera Une guerre au couteau, 1960-1962. Un appelé pied noir témoigne, c'est de 15h à 18h.
C'est un bon bouquin. C'est pas du tout. C'est pas du ressassage. Comment on dit ressassement ressassement ressassage ressassement. Enfin, en tout cas, c'est pas du radotage. Voilà. C'est vraiment un bon bouquin, très bien écrit.
C'est tout. C'est tout pour le. Non, oui, bon, si. Bon, attendez, j'en oublie un, je ne sais pas pourquoi. Conférence du docteur Mélenec et d'Alexandre Varro sur la Constitution européenne le jeudi 31 mars à 19h30 à Versailles, 5 rue Colbert. Oui. Pour tout renseignement, 01 39 51 69 97.
Moi, j'ai soigneusement rangé il y a 2 minutes une annonce et puis. Une petite annonce que j'ai soigneusement rangée il y a 2 minutes, tellement bien soigneusement rangée que, naturellement, je l'ai perdue. Bon, enfin, on verra ça tout à l'heure. La parole est à Pierre Lance. Alors, Pierre Lance est écrivain, il est journaliste également, il a écrit un livre en 2 volumes, et le 3e est à paraître.
Est en cours d'élaboration.
En cours d'élaboration, ça s'appelle « Savants maudits et chercheurs exclus ». C'est paru chez Guy Trédaniel, et ça vaut 30 euros, c'est ça ?
20.
20 euros.
Le deuxième tome 20 et le premier 18-30.
Voilà. Alors, le principe de ces livres, c'est de recenser, comme je l'ai dit, les savants maudits, les découvreurs de choses interdites, qu'ils soient médecins ou qu'ils exercent, médecins ou scientifiques dans le domaine de la santé, et qu'ils exercent leur talent dans d'autres domaines. Le deuxième volume parle de gens dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors, Nikola Tesla, c'est un personnage, ça, il faudra qu'on en dise quelques mots. Il y a Linus Pauling, c'est l'homme de la vitamine C.
Tout à fait.
André Gernès, qui est toujours parmi nous, qui est un médecin lillois, qui est un personnage extraordinaire de dynamisme, de force de caractère. Et qui, lui, tout simplement, il a été vraiment au contact avec cette réalité terrible de la lâcheté du monde politique en face de la puissance des laboratoires pharmaceutiques dans une affaire où était démontré le fond, le bien fondé de la phrase de Lumière, le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. On parle également de Gaston Nessens, de David Rhys-Evans, de Jean-Pierre Masqui, dont on a déjà parlé dans cette émission et qui est un médecin niçois qui avait mis au point un traitement
Contre la sclérose,
contre la sclérose
en plaques.
En plaques, de Paul Tépénier, de Pierre Delbet, Auguste Lumière, déjà cité, Norbert Dufou, Jacques Benveniste, dont on a dit le plus grand mal sur cette radio, mais pas dans mon émission, Louis Kervran. Alors.
Et si je comprends bien, Serge, c'est le carnaval des maudits, hein.
Oui, c'est le carnaval des maudits, avec une très belle formule. Tiens, voilà un titre générique. Et d'ailleurs, ce livre est dédicacé à la mémoire dédié à la mémoire du professeur Benveniste, qui est mort assez récemment. Et on a reçu, il n'y a pas longtemps, Jean-Pierre Petit,
oui.
Qui était un de ses amis et disciples,
oui.
Et qui était en larmes au micro quand il a parlé de lui. C'était très émouvant.
Oui, d'ailleurs, je cite Jean-Pierre Petit dans mon chapitre consacré à Benveniste.
Voilà. Alors, Pierre Lanz, comment vous est venue l'idée de consacrer une partie de votre vie à des personnages aussi controversés?
Alors, l'idée du livre n'est pas de moi. Il se trouve que, en tant que journaliste, alors directeur de la revue L'Air Nouvelle, j'avais publié un certain nombre d'articles sur ces savants maudits. Et c'est Daniel Bontemps qui, au moment où il a créé sa petite maison d'édition Les Presses de Valmy, et qui est un fidèle lecteur de ma revue, m'a dit « Mais pourquoi vous ne réunissez pas ces articles? Ça ferait un volume. » Alors, j'ai commencé par me frotter les mains en me disant « le travail est tout fait, c'est bien ». Mais enfin, c'était une illusion, parce qu'il est évident que c'est pas en regroupant quelques articles, je devais en avoir fait 5 ou 6 de 3 ou 4 pages chacun, on ne faisait évidemment pas un volume. Ce qui m'a donné l'occasion donc de replonger dans mes dossiers, de fouiller davantage, de trouver les choses qui m'avaient échappé la première fois, et puis d'allonger la liste. Parce que je me suis dit « ces savants maudits, chercheurs exclus, si on les prend un par un, parce que tous ces gens ont vécu en fait sur un siècle, hein, si on les prend un par un, les sceptiques peuvent toujours se dire « bon, bah celui-là, il n'a pas eu de chance, ou il s'y est mal pris, ou après tout, ce qu'il faisait n'était peut-être pas valable ». À partir du moment où vous en alignez 12, et a fortiori 24, et il y en aura finalement 36, et on pourrait malheureusement faire beaucoup plus, mais enfin, ce sera déjà quand même une démonstration assez complète. On a tout de même là, on aide le public, on aide les lecteurs à prendre conscience qu'il y a un phénomène de société, qu'il y a véritablement une obstruction généralisée à tous ceux qui sont des chercheurs indépendants, qui trouvent quelque chose qui dérange le monde officiel. La plupart de ces personnes se sont attaquées aux problèmes médicaux parce que bien entendu c'est essentiel. Pour évidemment de nombreuses personnes, et pour les malades naturellement, et pour tout le corps médical. Mais il y a aussi d'autres, des savants, comme on parlait de Tesla dans le deuxième volume, parce que j'ai voulu, que malgré tout, montrer que c'était vrai aussi dans d'autres domaines de la science que ce qui concerne la médecine. Et j'ai donc produit...
Alors, oui. Si vous permettez, je vous interromps une seconde, parce que on pourra y revenir tout à l'heure, mais... On peut comprendre pour la médecine que certaines découvertes, par leurs effets économiques lourds, soient étouffées ou fassent l'objet d'un complot. Mais dans d'autres cas, on s'explique assez mal pourquoi d'un seul coup on décide que tel personnage qui a découvert...
Le principal, le domaine qui vient tout de suite après la médecine, ou avant, ça dépend, c'est l'énergie.
L'énergie, oui, c'est ça. Oui, là on comprend aussi.
Là aussi, il y a des intérêts colossaux.
Tesla, dont on va parler.
Voilà, il y a aussi des intérêts colossaux qui sont menacés par les découvertes.
Donc c'est toujours le fric, quoi.
Alors, c'est toujours le fric. Alors là, si vous voulez, il faut aussi, quand même, être réaliste et bien comprendre qu'à partir du moment où des gens lance des grandes opérations industrielles sur un projet qui réussit et avec lequel, en effet, il gagne beaucoup d'argent, mais qui apporte quand même aussi quelque chose à la société. Si c'est en termes d'investissement, il est évident que si tout d'un coup c'est menacé par une découverte, c'est la panique.
Oui,
il y a un tremblement.
Alors à ce moment-là, je dirais que c'est là que le rôle de l'État doit jouer, c'est-à-dire que l'État il doit être l'arbitre entre l'intérêt public et l'intérêt privé.
Tout à fait.
Et non, vous n'êtes pas d'accord.
Ça, c'est la vue idéale, ça. C'est
non, je parle d'un état idéal.
Ah oui, d'accord. Oui,
je
ne
parle pas de la bande de mafieux
oui, c'est vrai. Nous confondons
qui dirige
pas
la boutique en ce moment. Ça, c'est autre chose. Non, non, dans un état vrai, normal, oui. Dire, où les gens font de la politique par conviction, c'est-à-dire dans une monarchie.
Par souci du bien commun.
Mais
voilà, dites-le.
Non, mais voilà.
Est-ce que, alors je parle de nos pseudo-démocraties, est-ce que le pouvoir politique n'est pas tellement imbriqué avec les autres que plus personne n'exige de rien?
Mais vous savez, alors on va quitter un peu, non pas le sujet, mais on va faire une digression. Un des plus grands malentendus volontairement entretenus dans l'enseignement de l'histoire en France, je parle sous le contrôle de mon excellent camarade Amiche, c'est l'utilisation du mot monarchie absolue. Quand on dit monarchie absolue, les gosses, on leur apprend que c'est le monarque qui fait ce qui lui plaît. Oui. C'est pas du tout ça. Absolue, ça veut dire un monarque n'a pas de lien avec quoi que ce soit qui ne soit pas lui-même. Autrement dit, un roi absolu, un monarque absolu, c'est quelqu'un qui agit sans dépendre de qui que ce soit, et en tout cas sans avoir parmi ses préoccupations la défense de ses propres intérêts, puisqu'il n'a pas d'intérêt à défendre, étant donné qu'il est. Il est ce qu'il est, et c'est incontestable. C'est toute la différence avec des hommes politiques qui, quand ils auront cessé de faire de la politique, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs, redeviendront...
Repris de justice.
Enfin, si, une fois qu'ils sont sortis de prison, ils redeviendront chefs d'entreprise, pharmaciens, généralement d'ailleurs fonctionnaires, à 99%.
Voilà, c'est le plus confortable.
Donc, eux, ils ont tout à fait intérêt à ménager les intérêts des fonctionnaires, des médecins, des pharmaciens, des...
Et faut tenir compte aussi de l'extrême complexité des sociétés modernes. Que je trouve qu'il faut quand même beaucoup de présomption pour prétendre gouverner tout cela avec des mécanismes qui sont qui boiteux à chaque instant.
Oui, et c'est surtout, si vous voulez, enfin c'est pas à vous, je vais apprendre ça, qui est un chrétien enthousiaste, que la complexité, c'est le signe du diable. Tout ce qui est compliqué vient du diable. Tout ce qui vient du bon Dieu, c'est simple. Donc la société moderne, elle est compliquée parce qu'elle est complètement endiablée.
Diable veut dire double, si je ne me trompe. Ouais,
pareil, c'est diabolos, c'est celui qui divise.
Bien sûr, bien sûr.
Donc à force de diviser, on arrive à un bordel majeur, et ça peut pas marcher, évidemment, parce que c'est notre société actuelle où vous avez tellement de lois que personne, absolument personne ne peut les connaître.
Le bon gouvernement, c'est généralement qui gouverne peu et qui laisse les gens se gouverner.
Absolument.
Et c'est le problème, c'est qu'on est une société où le gouvernement veut absolument tout contrôler de la vie des gens, veut gouverner. Nous sommes dans un totalitarisme.
Il ne faut quand même pas oublier que la première constitution politique, le premier code pénal, il tenait en 10 phrases.
Ouais.
Et je vous garantis que si vous les lisez soigneusement, vous verrez qu'en les appliquant, ça marche forcément. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça suffit à faire tourner une société. Tout le reste vient du démon, comme disait notre Seigneur. Enfin, le nôtre à nous, parce que vous, c'est autre chose. Mais
c'est le même pour Monsieur Lance aussi.
Oui, mais il faut encore qu'il l'apprenne.
Ils n'ont pas encore été présentés.
Ne nous engageons pas sur ce terrain. Je vous ai promis de ne pas m'y engager. Ne m'y poussez pas.
Non, mais je vous taquine un petit peu. Parce
oui, j'ai bien compris.
Il faut dire aux auditeurs qui méritent la vérité que attendu longtemps. Il y a longtemps que je voulais inviter Pierre Lance, mais j'ai attendu longtemps parce qu'on a un différent. Un différent sur ce point là,
une divergence d'opinion.
Lance est, je sais pas comment on dit, athée, agnostique.
Je suis un athée spiritualiste.
Un athée spiritualiste. Ouais, ce qui est ajouté l'injure à l'insulte, comme disait le perroquet, à qui, non content de l'avoir retiré de son île natale, on prétendait enseigner l'anglais. Voilà. Mais puis finalement on est tombé d'accord que ce qui était important c'était de parler de son livre.
Je ne parle pas de ces sujets-là,
sujets-là, puisque vous n'en parlez pas dans ce livre et que ce n'est pas de votre compétence. Enfin, en tout cas, pas beaucoup plus que moi. Hein? Donc revenons à ce sujet. L'essentiel de l'explication de cette censure, mais de cette censure violente, agressive.
Tout à fait.
Totalitaire, inquisitrice, enfin tout ce qu'on veut, c'est le fric. Hein. Il s'agit de défendre des intérêts.
Alors, je dirais qu'il y a encore autre chose, parce que je crois que...
Et la vanité.
Voilà. Il y a la vanité, il y a le carriérisme, il y a des gens qui défendent tout un prestige de là où ils sont, une situation. Donc, bien sûr, ça se traduit par de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Et quelquefois, je dirais que ce n'est pas la chose essentielle.
Dans le cas de Beljanski...
Oui, le mandarin, tout à fait. D'ailleurs, ça se définit comme ça. C'est le mandarin.
Dans le cas de Beljanski, par exemple, il y a les deux. Il y a, bien sûr, les intérêts de laboratoire, mais il y a aussi l'espèce de folle... haine que lui vouait le prix Nobel Jacob parce qu'il avait osé émettre une opinion différente de la sienne.
Et alors surtout que le directeur de l'Institut Pasteur avait émis une affirmation qui était immédiatement contredite par les découvertes de Beljanski. C'était terrible, évidemment. Et enfin là, bon, c'est un cas, évidemment, Beljanski est un cas, bon...
C'est pas exemplaire. C'est
tout exemplaire. Mais je dirais qu'ils sont tous exemplaires, mes bons hommes.
Oui.
C'est parce que... Alors, Priori, c'est quelque chose d'ahurissant. La machine Priori, qui a obtenu des résultats extraordinaires, tout de même, contre le cancer, après bien des années de combat, je peux dire, pas tellement d'ailleurs de Priori, parce que lui, sa position était simple, il dit, mais moi, les cautions scientifiques, j'en ai pas besoin, ma machine fonctionne, voilà. Elle guérit, on la fabrique et on la vend tous les médecins qui veulent bien s'en servir.
Jugeant le roi ses fruits.
Voilà, sa démarche était celle-ci. Et ce sont finalement ses amis et conseillers notamment de l'université de Bordeaux, qui disent, non, il faut qu'on passe par là. Alors, ça a duré 20 ans et ils n'ont rien obtenu. Parce qu'il y a eu là véritablement un barrage, et ce qui est extraordinaire, c'est que en dernier sort, alors a priori dans mon premier volume, la documentation sur la machine Priori est arrivée quand même à l'Élysée sur le bureau de Giscard, parce que le conseiller scientifique de Giscard voulait le défendre, et c'était malheureusement un mois avant le changement de président, et de toutes les retombées naturellement. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est un exemple, mais le cas de Priori est significatif parce que il y a tout, que je donne dans mon livre d'ailleurs, tout un processus chronologique avec les professeurs qui le soutenaient. En plus, il avait le tort d'être à Bordeaux. Alors, à Paris, c'est très mal vu, vous comprenez, parce que le lobby des cancérologues, il est principalement sur Paris. Et donc ça faisait un motif supplémentaire d'écarter. En plus, Priori était italien et bien qu'étant français de cœur et plus que de cœur d'ailleurs, puisqu'il avait été tout à fait adopté à la fois par les Français et les Bordelais, avait voulu conserver sa nationalité italienne, ce qui était à la fois son droit et son honneur. Et alors là, c'était la catastrophe. On voulait pas, absolument pas entendre parler de quelqu'un qui n'était pas médecin, qui était ingénieur électronicien. De quoi se mêle-t-il ?
Le joueur de mandoline, quoi.
C'est un peu, ça fait penser au type qui est en train de se noyer et qui demande au gars qui vient de sauver son diplôme de maître
d'œuvre. Voilà, c'est exactement ça.
Autrement, il refuse d'être sauvé
par un
plombier zingueur en vacances.
C'est exactement ça. Et alors, je dirais qu'il y a un malentendu fantastique, dans l'esprit du public d'ailleurs. C'est que on pourrait, à première vue, dire, oui, mais c'est des gens qui ne sont pas médecins. Mais est-ce que les médecins sont des chercheurs ?
Ah non ?
Je parle des médecins de bonne foi, des bons médecins, de ceux qui veulent vraiment soigner. Ils s'occupent de leurs patients, ce qui est déjà un travail considérable, et ils utilisent les moyens qu'on leur donne. Mais alors, il y a des médecins qui deviennent chercheurs, mais à ce moment-là, ils sont chercheurs, ils ne sont plus médecins praticiens. Bon, c'est un autre métier. Bon, donc à partir du moment où on a affaire à des gens, même d'une autre discipline scientifique, mais qui ont découvert des méthodes, des techniques, ou même des appareils, puisque certains, dans le cas de Priori, ont construit des appareils, qui peuvent soigner, les médecins doivent les accueillir à bras ouverts. Oui. C'est ridicule de dire, ah, mais vous n'êtes pas médecin, mettez-vous de ce qui vous regarde.
Mais ça, c'est un travers typiquement français, ça, hein, de cloisonner les domaines de compétences.
C'est vrai.
Vous n'êtes pas français, vous n'avez rien à foutre dans la médecine, vous êtes ingénieur en électronique, vous occupez de votre électronique, et foutez-moi la paix avec la médecine. Alors, évidemment, c'est pas propice à l'avancement des progrès, puisque il y a maintenant, il y a des engins médicaux qui fonctionnent avec l'électronique, c'est difficile de pas mélanger les deux, mais c'est très long. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir que ce comportement, c'est le sens de la pas de la parabole, mais des versets qui concernent la tour de Babel. Car pourquoi la tour de Babel s'est-elle effondrée? C'est probablement parce que, au bout d'un moment, l'hyperspécialisation du langage a fait que les gens ne pouvaient plus communiquer. Et que quand le maçon avait besoin d'un charpentier, il ne savait pas comment lui dire. Parce que lui disait le maçon, passe-moi une planche. Et l'autre disait, tu veux quoi, une volige, une...
Bon, c'est ce qui se produit dans les sciences.
Et maintenant, c'est ça, on est dans la situation d'une tour de Babel.
Alors, il y a certains scientifiques qui essaient de lutter contre ça, de dire, mais il faut qu'on se réunisse entre différentes disciplines. Il y a des essais, mais ça passe très mal. Cela dit, je dois dire que si c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement manifeste, mais ça n'est malheureusement pas vrai qu'en France, parce que, par exemple, aux États-Unis, qui semblent plus ouverts sur un certain nombre de choses, c'est pareil, ça s'est produit de la même façon, dès qu'on entre. Alors, on a vu le cas avec Linus Pauling.
Oui, alors vous anticipez une question que j'allais vous poser, ce qui était la suivante, on comprend très bien pourquoi et comment Prioré a été interdit en France. Pourquoi et comment Beljanski a fini par mourir de persécution et d'offense en France? Comment beaucoup de
Solomides aussi.
Solomides, ouais. Pareil. Comment le docteur Gernès a été écarté? Comment le docteur Masqui a été chassé du Conseil de l'Ordre parce qu'il guérissait la sclérose en plaques en faisant marcher les gens pieds nus en prenant 3 douches par jour. Alors évidemment, ça sur le plan de l'industrie pharmaceutique, c'est pas idéal. Hein.
Pour les plombiers.
Ça on comprend bien. Mais ce qu'on comprend moins, c'est que Solomides, Prioré, Beljanski, tous ces gens-là, ne disent pas un jour, écoutez, vous nous emmerdez, vous êtes bien gentils, mais il y en a marre, on fout le camp, on va aller aux États-Unis ou en Russie.
C'est ce qu'a fait Nassens, par exemple, qui est parti au Québec, où il a quand même des ennuis, mais moins qu'en France.
Ouais. Oui, oui. Mais alors, vous voulez dire que aux États-Unis, par exemple, ils auraient rencontré les mêmes difficultés?
Certains, notamment, dont je vais parler dans mon troisième volume, il y a quelqu'un qui est assez connu, Royal Rife, qui a lui aussi inventé, on peut dire une machine, enfin, c'est un appareil qui émet des champs électromagnétiques, qui guérissait le cancer, ça a été quelque chose de catastrophique. Mmh. Alors, je ne veux pas anticiper, puisque c'est dans mon troisième tome, que je suis en train d'écrire, mais c'est typique. Il y a eu exactement la même chose.
Mais vous alliez parler de Linus Pauling, qui est l'homme de la vitamine C.
Voilà, alors ça c'est un cas tout de même assez extraordinaire, parce que, dans mes savants maudits, chercheurs exclus, il y a un peu un paradoxe, c'est que certains ont été des gens très célèbres.
Oui, il était prix Nobel.
Oui, tout à fait. Mais par contre, à partir du moment où ils sont sortis de l'orthodoxie, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge. Alors, le cas de Linus Pauling est typique, puisqu'il a donc été prix Nobel de chimie. Il a été ensuite... Alors, le deuxième prix Nobel n'était pas un prix scientifique, c'est le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que, je le rappelle aux auditeurs, c'était quelque chose de très connu, mais Linus Pauling est l'homme qui a jeté le grand cri d'alarme contre les expériences atomiques dans l'atmosphère, et qui a réussi, parce qu'il avait un prestige énorme dans la communauté scientifique internationale, en plus c'est un homme qui avait une grande force de caractère, beaucoup de charisme, qui était un orateur très persuasif, et c'est lui qui a mobilisé la communauté scientifique en disant, mais si on continue comme ça, c'est la dégénérescence de l'humanité, tout le monde va être irradié, où va-t-on? Et c'est grâce à son action que tout de même il y a eu un ralentissement d'abord et ensuite un arrêt des expériences atomiques dans l'atmosphère, et ça a été donc ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Et lorsque Linus Pauling, qui n'était pas médecin non plus, et c'est ça, c'est la faute absolue, s'est mêlé de la vitamine C en partant de travaux de précurseurs, et qu'il a dit, mais si je vois les travaux qui ont été faits, si j'y ajoute mes propres études, je constate qu'on peut parfaitement stopper le cancer, et en tout cas le prévenir à coup sûr, avec tout simplement la consommation de vitamine C, qui en plus n'a aucun risque d'hypervitaminose, il n'y a aucun problème, et avec ça on peut stopper le cancer. Et ça a été la levée de bouclier. On a dit, il est fichu, il est gâteux, qu'est-ce qu'il nous raconte, etc. Ça a été terrible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors, son travail n'a pas été complètement inutile. On a quand même, le corps médical a tout de même été obligé d'admettre la valeur de la vitamine C, qui aujourd'hui est quand même, bon, très connue. Mais par contre, alors que Linus Pauling recommandait contre les maladies graves et notamment le cancer, des doses très hautes, de très fortes doses. Le corps médical, et d'ailleurs vous le voyez aujourd'hui, on admet d'utiliser la vitamine C, mais à des doses minimes, qui n'ont pas d'effet thérapeutique, qui peuvent avoir un effet bon d'une bonne vitamine, pourquoi pas, vaut mieux la prendre dans les fruits et les légumes, ça on se décide tout de même à le dire, mais ça n'a rien à voir avec un effet thérapeutique, où là il faut des doses très importantes.
Oui, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que j'entendais l'autre jour, je ne sais plus quel crétin de service, qui expliquait à la radio, que, parce qu'ils sont très nombreux, que un médicament ne peut pas avoir d'innocuité parce qu'un médicament qui n'a pas d'effet secondaire négatif, ça veut dire qu'il n'a pas d'efficacité positive.
Bon. C'est absolument faux.
Bien sûr. Moyennant quoi, on nous dit, vous comprenez, la vitamine C, si vous en prenez à très forte dose, ça, c'est dangereux. Oui, c'est probablement moins dangereux que l'aspirine aussi. Si on en prend à forte dose, on en crève. Là. Bon. Donc, on voit bien que dans l'incohérence des propos qu'il y a une volonté d'empêcher la vérité de se faire jour en utilisant des arguments contraires dans la même phrase. Voilà, ça ne gêne personne.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Dans les deux livres, quel est le, s'il y en a un qui a votre préférence, enfin qui vous paraît plus fascinant que les autres, lequel est-ce?
Alors là, c'est une colle que vous me posez, parce que, bon, sont tous des gens, parce que ce sont des biographies, hein. Oui. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais vous savez, on connaît un tel, il a inventé ceci, cela. Ça ne me suffit pas. Moi, je veux parler de gens qui ont consacré leur existence d'une façon passionnée à vraiment une recherche sincère et sans des questions d'intérêt, d'argent ou autre, qui étaient vraiment motivés par leur travail, et, d'ailleurs, la plupart sont morts, et qui ne sont pas arrivés à triompher des obstacles. Donc ce sont des mini-biographies, bien sûr, puisque bon, dans un chapitre de 25 à 30 pages, mais il y a quand même, j'ai quand même à peu près réussi à mettre l'essentiel sur chacun de ces personnages, de montrer sa vie, tous les efforts qu'il avait faits, tous les succès qu'il avait remportés dans les faits. C'est ça qui est quand même le plus important. Hein. Et qui, ça n'est pas passé, les gens ne le savent pas, les gens l'ignorent. Et ce que j'espère, et c'est peut-être utopique, mais ce que j'espère avec mes trois volumes, c'est que de provoquer quand même une espèce de choc dans l'opinion. Alors, mais enfin, tout de même, il y a quelque chose là qui ne va pas. Il faut dire, alors je dirais deux choses qui me semblent très importantes. La première, qui est une vérité, je l'affirme, on sait parfaitement guérir le cancer depuis plus de 50 ans, sans douleur et sans effet secondaire. Bon. Alors, c'est tout de même énorme. Et d'ailleurs, les gens n'arrivent pas à le croire. Alors, l'argument massue qu'on oppose en général...
Ça se saurait.
Si c'était vrai, ça se saurait.
Oui, c'est ça.
Je dis ça, c'est l'argument d'un souverain très connu, que Georges Brassens dit indétrônable, à mon avis, par erreur, car il est détrôné tous les matins, c'est le roi des cons. N'est-ce pas ? Ça, c'est évident, parce que... Comment voulez-vous qu'une vérité se sache si beaucoup de gens ont intérêt à ce que ne se sache pas? C'est une évidence. Donc on ne peut pas dire ça. Ne dites pas si c'était vrai, ça se saurait.
Mais vous savez,
informez-vous.
Je fais une parenthèse, mais quand j'ai publié dans Minute, il y a 10 ans avant tout le monde, 12 ans avant tout le monde, l'existence de Mazarine Pinjot.
Ah oui.
Les gens disaient, si c'était vrai, ça se saurait. Ça finit par se savoir.
Oui, oui. Ah oui, mais c'est ça d'ailleurs qu'il faut aussi répondre, c'est que vous dites ça, mais ça finira par se savoir. Seulement beaucoup de gens qui sont là seront morts, et dans le cas des malades, notamment du cancer, c'est tout de même absolument tragique. 150 000 morts par an par le cancer, et on ne parle pas des souffrances terribles.
Et le docteur Gernèse démontre par sa vie, j'en parlais dans votre livre, démontre par sa vie que c'est pas par hasard, c'est pas par erreur, c'est pas par accident, c'est par volonté mauvaise que le secret est gardé. Parce que dans le cas de Gernèse, il y a quand même un grand caïd de la médecine, je crois que c'est le président de l'Académie de médecine, qui a un moment...
De la région de Lille, du Nord.
Qui dit... Oui. Mais si on applique la technique Gernèse, on va épargner, alors je ne sais plus quel était le nombre, mais c'est phénoménal le nombre de morts et de malades surtout. Il faudra fermer des hôpitaux et dans 10 ou 20 ans, il faudra ouvrir des maisons de retraite et financer les retraites des vieux qui ne seront pas morts du cancer aujourd'hui. C'est hallucinant quand on entend ça. Mais ce type, c'est le docteur Mengele.
Ouais. Oui, exactement. Voilà, on arrive à ça.
Enfin,
on arrive à ça.
Quelle est la motivation Mengele? C'est une motivation fantastico-raciste. Tandis que lui, c'est une motivation fantastico-économique, mais c'est exactement la même chose. Il s'agit de faire mourir des gens pour un principe. Enfin, pour un principe, pour une espèce de principe tordu. Ben, il n'a jamais été traîné devant aucun tribunal de Nuremberg, ce type-là.
Eh oui.
Et au contraire, c'est Gernèse qui a été persécuté.
Tout à fait, il n'a jamais pu arriver. Et puis alors, il faut quand même. Alors, pour le coup, c'était un médecin, lui. Ouais. Un ancien directeur de l'hôpital de Roubaix. Donc, on ne peut pas dire qu'il était hors du circuit.
Dans ce cas, il y a encore mieux dans l'histoire de Gernet, c'est qu'il dit. Pour prévenir le cancer, il y a un moyen extrêmement simple. Oui. Il faut prendre une alimentation saine, ça va sans dire, il faut pas fumer, etc., bien sûr. Mais il y a un produit qui permet de prévenir le cancer d'une façon simple. Il faut prendre une fois ou deux fois par an...
De l'hydrate de chlorate.
À dose
infime.
Alors l'hydrate de chlorate, je vous signale que c'est ce qu'on donne aux enfants quand ils font leur... qu'on donnait aux enfants quand ils faisaient leurs dents.
Ouais. Alors, je vais vous dire, on a dû s'apercevoir que Gernet avait raison... parce que on a retiré l'hydrate de chlorate de la vente.
On ne trouve plus l'hydrate de chlorate. C'est quand même extraordinaire.
C'est incroyable. Sous prétexte que certaines études donneraient à penser qu'il y a peut-être un risque aussi sur faim.
Non mais il faudrait savoir combien. Parce que avec ce système-là, on dit on supprime l'hydrate de chlorate parce que peut-être qu'il y a un ou deux morts par an à cause de l'hydrate de chlorate, ce qui reste à prouver d'ailleurs.
Ça reste à prouver.
Mais à ce moment-là, il faut supprimer l'automobile. Ah bah parce que là, c'est 2 millions de morts ou je sais pas combien.
Il faut tout supprimer.
Ouais. Oui. Et puis il faut supprimer la vie parce que pratiquement 100% des gens qui vivent finissent par mourir.
Vous savez ce qu'on dit, c'est que la vie est un danger mortel.
C'est une maladie mortelle sexuellement transmise.
Voilà. Bon. Alors je voudrais citer, puisqu'on parle, vous parlez de Gernet et de l'hydrate de chlorate, je voudrais citer un autre cas parce que là aussi c'était un médecin et un grand médecin, c'est le professeur Pierre Delbet, qui a été un très grand chirurgien, notamment pendant la guerre de 14. Et qui a découvert que le chlorure de magnésium, quelque chose de tout à fait simple, était également un très grand préventif du cancer, également curatif. Et d'ailleurs, il l'a prouvé non seulement par toutes sortes d'expériences de laboratoire qu'il a faites, mais également par des cartes géographiques qu'il a fait établir par un cartographe et avec des statistiques. Et dans lesquels il ressort des cartes, pas seulement en France, mais également en Italie, en Luxembourg, en Belgique, enfin différents pays. Mm-hmm. Et où il ressort que toutes les régions qui sont riches en chlorure de magnésium, en magnésium, mm-hmm. disons plus exactement, qui sont riches en magnésium, il y a beaucoup moins de cancéreux que dans les autres. Mm-hmm. Et la preuve a été administrée, alors en Italie c'est extraordinaire, parce qu'il se trouve, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais à l'époque de Delbet, que les villes italiennes étaient approvisionnées en sel, par des salines différentes, c'est-à-dire chaque ville avait son lieu de son fournisseur, disons, de sel. Or, certaines de ces salines avaient un sel très riche en magnésium, et d'autres, au contraire, très pauvres, ou même n'en avaient pas du tout. Et les statistiques qu'a établies Delbet sont effarantes. Ça varie, c'est 10 fois plus de cancéreux dans une région sans magnésium. Bon, donc, les preuves étaient là. Et alors, Delbet a d'ailleurs même créé un médicament... La Delbiase, qui lui a donné son nom. Alors d'ailleurs, l'Académie de médecine lui a reproché, dont il était membre, et lui a reproché de faire quelque chose à but lucratif, comme si, pourquoi pas, comme s'il fallait pas faire bénéficier le public d'un produit, on ne pouvait même pas le donner gratuitement. Enfin, c'était insensé.
Surtout que je pense que tous les membres de l'Académie de la médecine, eux, travaillaient gratuitement.
Bah voyons. Mais ce qui est quand même très fort, c'est que pendant des années, Pierre Delbet, qui avait quand même énormément de prestige à l'Académie de médecine, a essayé de convaincre ses collègues. Il faisait dans les séances de l'Académie, il exposait, il faisait circuler les photos de ses expériences, les graphiques, les cartes, enfin toutes les preuves. Tout le monde opinait du bonnet. L'Académie de médecine n'a jamais, il a même demandé au gouvernement de l'époque. Ça se passait donc ça après la première, entre les deux guerres. Il a dit, mais on peut faire une politique préventive du cancer. Mais ça n'a jamais intéressé personne, comme vous disiez tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous prévenir quelque chose alors que c'est beaucoup plus simple de se soigner en gagnant beaucoup d'argent et en faisant vivre plusieurs professions.
Pierre Lançon, je vous interromps un instant parce qu'on s'est mis à deux tout à l'heure pour dire une bêtise.
Ah bon?
Mais c'est pas grave, on va la corriger tout de suite. C'est pas Jacob, c'est Mono.
Oui, tout à fait.
Qui était opposé à Belgian.
Tout à fait. Merci à notre auditeur de rectifier. Tout à fait.
Alors, il y a un personnage qui ouvre votre tome 2, qui est un personnage qui me fascine depuis très longtemps, c'est Nikola Tesla.
Ah oui, extraordinaire.
Alors, Nikola Tesla, c'est un Serbe, tout simplement, il a inventé le moteur à rien, lui.
Exactement.
C'est quand même extraordinaire.
Extraordinaire.
Il a fait un moteur qui fonctionne.
Alors, faut d'abord dire que Nikola Tesla, parce que bon, le n'est pas connu du grand public, il est quand même bon assez connu des milieux, disons scientifiques, mais il n'est pas très connu du grand public. Alors, c'est quand même tous les gens qui se servent du courant alternatif, c'est-à-dire tout le monde, le doivent à Tesla.
Oui, parce que Edison, c'était
Edison, c'est le courant continu.
Le courant continu, il voulait pas du courant alternatif.
Et elle en voulait pas. Non. Et c'est Tesla qui a démontré que le courant alternatif était quand même bon. Alors, c'est un point qui est tout de même important. Tous les gens qui appuient sur un bouton électrique doivent savoir qu'ils doivent quelque chose à Nikola Tesla. Également ceux qui allument un poste de télévision. Parce que dans un poste de télévision, il y a deux inventions qui reviennent à Tesla. Et puis enfin bon, c'est tout. On pourrait énumérer un catalogue de ce qu'a réalisé Tesla. Étant entendu que le plus important, c'est ce qui n'a pas été réalisé. Puisque pratiquement, comme vous le disiez, Nikola Tesla a trouvé, en effet, le moyen de tirer de l'énergie de ce qui nous entoure.
Ce qu'on appelait l'éther.
Voilà, exactement, de l'espace, de voilà, ouais, tout à fait. Et il avait même un projet dans lequel il utilisait la planète, si je puis dire, la Terre, comme une prise électrique géante pour fournir de l'énergie. C'est extraordinaire. Et alors, je fais une réserve d'ailleurs dans mon chapitre, parce que je dis, oui, mais bon, là aussi, il faut aussi tenir compte d'une société, comment elle fonctionne. Si du jour au lendemain vous amenez l'énergie gratuite, il faut quand même calculer les conséquences. Les bouleversements peuvent être, bon, bien sûr,
mais étant essentiellement adaptable, on s'en serait probablement bien arrangé.
Mais de toute façon, personne ne vous demande du jour au lendemain. D'ailleurs, rien ne se fait dans la vie du jour au lendemain. Les adaptations sont lentes, mais il suffit de mettre les choses en route avec mesure et méthode. Voilà, c'est tout. Mais bloquer quelque chose sous prétexte que, ça ne va pas.
Ça ne pourra pas durer, là encore, un jour ou l'autre.
Oui, mais enfin, ça fait déjà quand même assez longtemps que ça dure.
Oui, parce que c'est tellement lourd ce qui est en cause. Vous vous rendez compte, si on arrivait simplement avec deux antennes sur le toit de sa maison à alimenter la maison entière, deux antennes sur le toit de sa voiture, on pouvait faire rouler sans pollution, sans rien. Bon, c'est quand même ce qu'a découvert probablement Tesla.
C'est probablement bien le courant alternatif.
Oui, le courant alternatif, c'est très bien.
Alors, ce qu'il faut quand même dire aussi à propos de Tesla, c'est que cette énergie dont on n'a pas voulu entendre parler, les militaires américains se sont quand même dit que pour la guerre, ça pourrait quand même être intéressant, parce que Tesla avait quand même trouvé le moyen, si vous voulez, bon, je vais résumer ça d'une image simple, c'est-à-dire d'envoyer un faisceau d'énergie très fort dans n'importe quel endroit de la planète, et avec un effet auprès duquel la bombe atomique, c'est une plaisanterie. Alors, vous voyez un petit peu le
projet ARP.
Le projet ARP dont on a parlé...
On en parle un peu en ce moment, depuis quelques temps, qui est un système probablement qui permet de manipuler le climat. Enfin, en tout cas, ils essayent de manipuler le climat avec. C'est aussi le fruit
c'est aussi
de la découverte de Tesla.
Tout à fait.
Tesla avait découvert aussi un système qui était de la taille d'une boîte d'allumettes et qui amplifiait qui crée des vibrations harmoniques. Et il a fait l'expérience sur un pont, je crois que c'est sur le pont de Brooklyn, non?
Oui, je ne saurais pas vous dire, mais il a fait tellement d'expériences.
Il a été obligé d'arrêter l'expérience. Le pont était aurait été démantibulé.
Tout à fait. Tesla fait des expériences étonnantes, puisque dans la région où il était, il créait des orages extraordinaires, ça faisait sauter le courant dans toute la région, et il était obligé de l'arrêter. Mais c'est tout de même fantastique.
Au point qu'on peut se demander s'il n'y a pas dans ce personnage une dimension surnaturelle. Son histoire a quelque chose de surnaturel. C'est un génie comme ça ne peut pas pousser.
Je ne sais pas. Vous savez, ce qui me fait peur, moi, c'est que des génies, il y en a. Il y en a finalement plus qu'on croit. Et la difficulté, comme j'ai dit d'ailleurs quelque part, c'est que plus vous comprenez de choses et moins vous êtes compris.
Forcément.
C'est normal, si je puis dire. Et donc, c'est une des difficultés aussi pour un génie de percer.
Berger avait une très belle image pour ça. Il disait que la connaissance est comme un ballon gonflable qui grossit dans l'ignorance. Et donc, les points de contact sont de plus en plus nombreux. Plus la connaissance grandit, et plus les points de contact avec l'ignorance sont nombreux. Et c'est un peu ça. C'est un moment où qu'on soit, on est en face de quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qu'on lui explique.
C'est ça. Alors, je dirais quand même aussi une chose, c'est que, bon, dans mes livres, il y a un aspect polémique, et j'attaque beaucoup, disons, les puissants du jour, et tous ceux qui ont fait obstacle à tout ça, mais tout de même, je dois dire que le public, monsieur tout le monde, a tout de même une énorme responsabilité. D'abord par ce fameux argument, si c'était vrai, ça serait. Alors avec oui, ça, si avec vrai, ça, on s'endort ça. sur ses deux oreilles, on ne cherche plus. Donc ça, c'est quand même une culpabilité de monsieur tout le monde, qui ne cherche pas à s'informer. Beaucoup de gens croient que l'information, c'est donné. C'est pas donné du tout.
Il faut la chercher.
Si les gens écoutent les télés, les radios, mais ne branchent jamais Radio Courtoisie, il y a des choses qu'ils ne sauront pas. Et donc il faut aussi chercher l'information. Bon, chacun a un devoir de s'informer et de ne pas attendre que les autres lui projettent une information qu'il puisse souvent, ou en tout cas très souvent, est orientée. Bon, ça c'est une chose. La deuxième responsabilité, c'est que par exemple, il y a beaucoup de choses qui se donnent bonne conscience en envoyant leur obol, par exemple, à une association de recherche sur le cancer.
Voilà.
Et comme ça, ils se disent, ah ben moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je donnais, et avec ça, je suis tranquille. Eh bien non, ils sont pas tranquilles du tout.
Mais avec ça, Crosemary s'est payé une piscine.
Entre autres, vous savez, j'ai trouvé pire que Crosemary, hein. Quand j'ai trouvé un Crosemary puissance 10. Je dois dire aux États-Unis.
Ah oui,
oui. Oui, oui. Bah, dans l'affaire de Royal Rife, dont je vous parlais, il y a eu un super Crosemary,
qui était terrible.
Ah, c'était pas qu'il s'en est mis plein les plats. Oui, il voulait. C'est-à-dire qu'il voulait, faire un contrat avec Ralph pour bénéficier de l'invention en question. Comme Ralph a refusé, alors il a tout fait pour le démolir, et il est malheureusement pratiquement parvenu.
Voilà, alors bon, on pourrait en parler pendant des heures de ce livre qui est d'une lecture facile parce que c'est un livre de journaliste.
J'ai essayé d'être clair. Oui, je me définis plus quand même comme un écrivain que comme journaliste. Mais
il est très anecdotique, il est très riche.
Voilà, je donne des exemples de choses humaines le plus possible.
C'est pas une thèse.
Non, puis c'est pas. Oui, j'ai pas du tout voulu faire un livre trop technique et trop. Bien sûr, c'est quand même. Autant que possible, lisible par tout le monde. Ce sont des choses simples et des faits.
Il n'y avait aucun propos blessant dans l'utilisation du mot journaliste, pour une fois, dans ma bouche.
Ah, mais j'ai bien compris. Non, mais je ne suis pas...
Je n'ai pas voulu.
Ça se sort.
C'était juste une précaution, disons, pour que les mots gardent leur sens. Bon, il est évident que beaucoup de journalistes deviennent écrivains, beaucoup d'écrivains écrivent dans les journaux. Quand on parlait de François Mauriac qui écrivait chaque jour dans le Figaro, on aurait quand même plus dit un écrivain qu'un journaliste. Bon, vous voyez, c'est sûr qu'il n'y a pas de frontière précise entre les deux professions, mais je dirais tout de même que d'une façon générale, l'écrivain approfondit quand même davantage que le journaliste, par nécessité, parce que le journaliste est...
Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas romancier, là.
Donc... Non, je ne suis pas romancier, voilà. je romance le moins possible.
Pour terminer, je voudrais dire un mot d'un personnage, un des personnages les plus étranges de votre livre, c'est Louis Kervran.
Ah oui, Louis Kervran.
Parce que Louis Kervran, il a fait une chose extraordinaire, il a démontré la bien fondée de l'alchimie, enfin la réalité scientifique de l'alchimie, mais il l'a fait d'une façon qui est très drôle au départ, c'est-à-dire qu'il a constaté que quand les poules, pour fabriquer leurs coquilles d'œufs, elles ont besoin de calcium. Et quand elles sont sur un terrain où il n'y a pas de calcium, elles prennent n'importe quoi et elles le transmutent en calcium. Et par exemple, si on nourrit des poules, enfin si on donne du mica à picorer aux poules, il se produit un phénomène alchimique dans l'organisme de la poule qui fait que ce mica devient du calcium.
C'est une transmutation.
Aucun chimiste n'est capable de faire.
Bien sûr.
En laboratoire.
Et naturellement, ils ont tous déclaré que ce n'était pas possible.
Que c'était faux, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est quand même assez rigolo.
Alors ça revient d'ailleurs maintenant sous un autre nom qu'on appelle la fusion froide.
Oui.
Et il y a des scientifiques qui, là aussi, ont essayé de faire passer ça. Ils se heurtent aussi à un blocage.
Et on commence toujours par dire... Si ça marchait, et
voilà,
ça se saurait. Voilà. Eh bien, si vous voulez avoir la preuve que ça peut marcher sans se savoir, il faut lire les livres les deux volumes de Pierre Lanz, Savon maudit et Chercheur exclu. Des questions, Victoria?
Connaissez-vous le nom du chercheur qui a été prix Nobel pour ses travaux sur la chlorophylle? C'était anticancéreux.
Non, je n'ai pas. Il doit être dans ma liste de candidats au Savon maudit, certainement. Je l'ai pas en mémoire.
C'est pas la réponse à la question, mais. Un auditeur nous demande, un auditeur médecin recommande le livre, la revue Pour la science chez Belin, rue Ferron, l'exemplaire, le numéro consacré à Linus Pauling, qualifié à juste titre d'Einstein de la chimie, Pauling, qui fut deux fois prix Nobel et dont le troisième prix aurait dû être partagé avec Watson et Crick pour la découverte de l'ADN. Mmh. C'est quand même... C'est pas n'importe qui.
Ah non, c'était prix absolument... Nobel, c'était pas
même
n'importe
qui. S'il y a un prix Nobel de la paix qui prouve...
C'était pas...
Qui prouve pas grand-chose.
Oui, c'était
bien autre chose. Le chien était intéressant, par
exemple. Oui. Parce que... Ouais.
Vous oubliez le docteur Alexis Carrel.
Non, il n'est pas oublié. Je n'ai oublié personne, mais je ne peux pas prendre tout le monde.
Merci d'avoir invité Pierre Lange. Pierre Lange, je ne partage pourtant pas certaines positions philosophiques, mais qui mérite d'être salué pour son courage de journaliste scientifique.
Je vous remercie.
Un auditeur nous signale que Louis XVI, lui, désirait recevoir toute personne ayant fait une découverte qui pouvait être utile à ses sujets.
C'était un roi.
En quoi M. Gaston Messin est-il un savant méconnu ?
Massins ? Oui, Gaston Massins, il a tout simplement inventé un remède contre le cancer très efficace, qui d'ailleurs fait ses preuves, et qui continue à partir du Québec, qui diffuse dans le monde entier par correspondance. Mais alors, il y a tout de même au Québec, c'est intéressant de le dire, quelque chose de moins dur qu'en France, c'est-à-dire que si il y a une demande, même sur un produit, ou enfin une thérapie qui n'est pas officiellement reconnue, mais s'il y a une forte demande...
On se penche dessus.
Voilà. Oui, non, on se penche pas dessus, mais on autorise un certain nombre de praticiens à l'utiliser.
Ah bah oui.
Et c'est comme ça que Nassens réussit à tout de même diffuser son produit, qu'il envoie dans quand même 80 pays.
On l'autorise à apporter des preuves, quoi, en quelque sorte.
Voilà, on l'autorise à prouver qu'il a raison.
Oui, non, c'est pas...
Alors, déjà pas mal.
Des auditeurs, dites... nombreux demandent... Oui.
Pardon. Un auditeur médecin nous transmet une anecdote Pauline. Pauline était âgée de 90 ans. Un de ses élèves de 70 ans lui dit ceci. Cher maître, ne pensez-vous pas que 19 grammes de vitamine C par jour est un peu trop pour l'organisme? Voici la réponse à son élève de 70 ans. Jeune homme, nous en reparlerons dans une vingtaine d'années, si cela vous est possible.
C'est très joli. Donc, le nom du docteur de Nice qui soigne...
Jean-Pierre Macky.
Qui dirige, c'est Jean-Pierre Macky qui dirige la sclérose en plaques. Qui a proposé
alors,
un traitement.
Là, je fais quand même une nuance, parce que le docteur Macky, qui est très honnête, dit très franchement, je ne veux pas prétendre guérir la sclérose en plaques. Je soulage énormément les malades qui, eux, se considèrent comme guéris, parce qu'ils ont trouvé tous leurs moyens. Ils disent qu'ils sont guéris, mais moi,
je n'ose pas
affirmer qu'elle est guérie.
Il est extrêmement correct et prudentissime, mais dans le bon sens.
Alors, je donne aussi une autre précision, il est maintenant retraité, il n'exerce plus, mais il distribue une documentation à toutes les personnes qui lui demandent, et j'en profite pour dire que dans mes deux volumes, dans le troisième ce sera la même chose, il y a à la fin non seulement une bibliographie mais un carnet d'adresses avec les endroits et notamment l'adresse du docteur Macky. On peut lui demander voilà, il y a des renseignements pratiques.
Comment écrivez-vous le docteur Macky?
M-A-S-C-H-I, mais il se prononce Macky. C'est lui qui le dit. Hein.
Une auditrice. Il y a 2 ans, j'étais hospitalisé pour être opéré d'un cancer de la peau. Comme j'avais des parents sur le nez, comme j'avais des parents qui avaient des mandariniers dans le midi, je me suis gavé de mandarines et je n'avais plus rien sur le nez. J'en ai parlé à mon chirurgien qui m'a dit c'est un miracle.
Mais... Eh ben très bien.
C'est voilà. Une explication rationnelle. Une
explication rationnelle pour un médecin.
Tout à fait.
Pasteur non plus n'était pas médecin.
Absolument.
Reconnu, nous dit un auditeur, c'est vrai, oui.
Oui, mais enfin comme il a donné les moyens à la médecine de s'organiser pour.
Il y a le fameux tableau au musée Pasteur où on le voit dans son laboratoire, mais c'est un médecin qui vaccine parce que lui il n'a pas le droit de vacciner parce qu'il n'est pas médecin. Ouais. Célèbre tableau.
Ouais.
Alors, un auditeur nous rappelle effectivement l'existence du Bolder Jacquier.
Oui.
Grâce à Radio Courtoisie et à Pierre Lance, et grâce naturellement à l'inventeur du Bolder Jacquier, j'ai découvert cet appareil extraordinaire qui régénère les cellules. Ma femme et moi sommes très satisfaits. Merci de ça.
Alors, René Jacquier, qui est encore vivant, qui a 95 ans, si je ne me trompe,
qui est en pleine forme,
oui, parce que tout lui et toute sa famille marche au bol de l'air.
C'est formidable.
Qui est fabriqué, qu'on peut se procurer. Il y a les adresses aussi dans mon livre. Et c'est assez, en effet, assez extraordinaire. Mais c'est pareil, il n'a jamais pu faire accepter son appareil, qui est préventif de nombreuses maladies, encore qu'il en parle assez prudemment sur ce plan-là. Mais les maladies cardiovasculaires, le cancer, enfin, toutes sortes de maladies dégénératives qu'on a appelle maladie de civilisation, ce qui est tellement l'humour noir. Oui, ça,
c'est, oui. Alors, c'est le docteur en pharmacie Dutheil a mis au point le chlorumagène, c'est ça ? Ou chloromagène, c'est assez difficilement lisible. Ça,
alors, il y a plusieurs formes de chlore de magnésium qui sont en vente en pharmacie, et on pouvait encore tout dernièrement se procurer la Delbiase de Delbay, mais on m'a dit au laboratoire qu'ils allaient cesser la fabrication, et je leur ai dit, écoutez, attendez, parce que mon livre, pareil, il y a beaucoup de gens qui vont vous l'avoir commandé, ils vont peut-être continuer.
Alors, je vous remets, Pierre Lance, un message auquel vous pourrez répondre personnellement, c'est une dame qui demande un renseignement.
D'accord.
Je ne peux pas le donner. Parce que ça conduirait à faire de la publicité médicale, ce qui est formellement interdit.
Je rappelle les coordonnées, enfin le livre Pierre Lance, volume 2, Savants maudits, chercheurs exclus, édition Guy Trédaniel, 19 rue Saint-Séverin, Paris 5e, et le prix c'est 20 euros.
Il n'y a pas une signature qui est prévue ?
Alors, j'ai fait plusieurs signatures. Enfin, il y en a eu notamment au Salon Médecine Douce, où le livre a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je crois qu'il a été numéro un des ventes au Salon. Et vraiment, là, alors beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont venus en premier, c'est ceux qui avaient lu le premier volume et qui voulaient avoir la suite. Et donc, c'est un livre qui semble avoir, et qui j'espère aura des retombées dans l'opinion, parce que c'est mon principe. Si vous voulez, je poursuivais plusieurs but. Le premier, c'est quand même de rendre justice à des gens qui avaient été écartés alors qu'ils ont fait un travail extraordinaire, tout de même pour la santé de leurs semblables. Et donc, pas seulement, nous l'avons vu sur le plan de la santé. Je voulais aussi faire prendre conscience autant que possible au public de ce qui se passait. Il y avait quelque chose de tout à fait anormal. Et j'espère que ça aura des suites, qu'il y aura notamment une association en formation actuellement pour essayer tout de même de bousculer le pot de fleurs, quoi, si je puis dire.
Voilà, Pierre Lance, merci beaucoup.
Ouais, dans le jardin.
Vous avez également un journal qui s'appelle L'Air
Alors,
Nouvelle.
Oui, qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, était à l'origine de ces articles sur le savant maudit, qui a 25 ans d'âge maintenant. L'Air Nouvelle.
Comme un bon whisky.
Voilà. Et donc, je peux envoyer aux lecteurs que ça intéresserait. Alors, je précise que ça traite de beaucoup de sujets, hein, pas seulement des savants maudits. Qui est donc, on envoie un spécimen contre trois timbres lettres. L'adresse, c'est boîte postale 171. 06 407 Cannes Selex.
Vous avez une belle adresse.
Boîte postale 171 06 407 Selex.
Cannes Selex.
Cannes Selex.
Voilà. L'Air Nouvelle, le titre de la revue.
Et alors, ça, c'est un message qui s'adressait au docteur Dor, mais je le trouve joli, alors je vais le lire, bien que le docteur Dor nous ait quittés. Provisoirement, je m'en fous.
Juste à peine, Dor.
Avez-vous jamais fait attention à la bien vieille chanson du désormais canadien Nicolas Perrac, So Far Away From LA? Tu connais ça?
So Far Away From LA.
Et il chante dans cette chanson, pauvre Madame Polanski, d'un seul coup, on t'a pris deux vies. Oui. Madame Polanski, c'est Sharon Tate assassinée, enceinte en 1969, sataniste Charles Manson.
Ouais.
Cet hymne anti-abortif est diffusé régulièrement et benoîtement par les radios. Ce qui prouve une fois de plus que ces gens-là n'écoutent pas ce qui passe sur la radio.
C'est un peu vrai.
Oui, absolument. Je voudrais dire aussi une toute petite chose. Dans mon deuxième volume, donc, il y a aussi Norbert Dufault, qui a été le découvreur de la molécule de silicium organique dont tout le monde parle maintenant, tout de même, grâce, il faut dire, à Loïc Le Ribot, que vous avez reçu ici sur l'antenne, et qui a poursuivi, qui a travaillé pendant une dizaine d'années avec Dufault, et qui, après le décès de Dufault, a continué seul. Et parmi les, il y avait deux médicaments qui étaient sortis avec le DNR de Dufault, donc en fait le silicium organique. Il y en avait un qui avait été retiré de la vente, et je dis dans mon livre qu'il a été retiré de la vente, et je viens d'apprendre qu'il a été remis récemment en vente. Hein, c'est le conjonctive, et qui est remis en vente depuis quelque temps.
Je voudrais
signaler aussi, donc, alors ça concerne donc là, Loïc Le Ribot. Vous avez parlé, je pense, du film qui a été réalisé sur lui, Mandat d'arrêt contre un chercheur, qui est remarquable véritablement fait, qui n'est pas diffusé sur les antennes pour l'instant, bien entendu, mais qui existe en DVD et que l'on peut commander donc à Satya Productions, dont je vous ai donné, je crois, la nouvelle adresse là, qui est rue Mira dans le 18e. Le numéro m'échappe.
Je ne l'ai pas sous les yeux, mais rue Mira, c'est une adresse.
Rue Mira, on est en plein dans le.
On rejoint le début de notre émission.
On retrouve voilà, 70 rue Mira dans le 18e. 30 euros pour inclus et 27 seulement pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Ah, bah, voilà une bonne nouvelle. C'est très bien. J'ajoute
Satya Production.
J'ajoute que le concert qui était prévu pour en hommage à Loïc Leribaud est remis. Pour l'instant, la date...
Il est reporté au mois de novembre.
Au mois de novembre, c'est ça. Donc on le signalera, mais comme on en avait parlé ici, j'en ai parlé dans le livre journal, je signale aux auditeurs qui auraient voulu, qui auraient réservé des places, ils seront prévenus de toute façon par Michel Bauger, mais je signale que s'ils avaient réservé des places, ils peuvent disposer de leur journée parce que le cancer est remis. Et le cancer est guéri. C'est autre chose. Très souvent, après ce genre d'émission, on m'appelle pour demander où on peut se procurer les produits. Alors, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. Je vous promets que je ne touche pas un sou là-dessus. Il y a une boutique à Paris, il n'y en a pas qu'une, mais enfin, moi, j'en connais une qui s'appelle La Nature à Paris, 45 boulevard Saint-Germain, où les produits sont disponibles. La mégamine, le 45 boulevard Saint-Germain à Paris. Il y a tout à peu près, hein. Donc vous pouvez y aller. Monsieur Lance, seriez-vous disposé à dédicacer votre livre à la librairie du Ken vendredi ou samedi? Alors ça, il faut que vous preniez contact.
C'est possible. Oui.
27 avenue du Ken. Bien, mais je vous remercie beaucoup d'être venu.
C'est moi qui vous remercie de votre accueil.
Je recommande chaudement la lecture et puis je pense qu'on se reverra.
Mais pourquoi pas? Parce que y a un auditeur, pour le troisième tome, par exemple.
Un auditeur qui... on va terminer là-dessus, si vous voulez. Je ne vais pas vous donner le temps de le faire, mais qui se propose de servir de tendre le filet dans lequel vous ne manquerez pas de vous écraser quand vous essaierez de nous démontrer comment on peut être à la fois athée et spiritualiste.
Oui, on m'a très souvent évidemment soulevé la question. Non, je ne peux pas vous répondre, là, comme vous dites, ça demanderait une heure ou deux. Mais enfin, j'ai les réponses.
C'est une question qui est à l'étude des loges.
Je ne sais pas.
Si, moi,
première nouvelle. Pourquoi pas.
Merci beaucoup.
Je donne rapidement l'éditeur de Jacques Chirac, Une éternelle jeunesse, c'est les éditions Gozevitch.
G-A-W-Z-E-W-I-T-C-H.
G-A-W-Z-E-W-I-T-C-H.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, mais il vaut mieux répéter parce que nos auditeurs, ils savent tout, mais ils sont lents pour écrire. Tellement ils sont intéressés par ce qu'ils entendent.
Rendez-moi mon bouquin, s'il vous plaît, ma brochure, s'il vous plaît. Espèce de voile.
Ça va, j'ai noté.
La parole est à monsieur Amiche.
Ça tombe bien, merci beaucoup.
La parole est à l'accusation maintenant. Oui, merci beaucoup.
Alors, Daniel,
la transition est toute faite, d'ailleurs, puisqu'on vient de parler de vrais scientifiques maudits, et puis là, on va parler d'un faux scientifique béatifié. Agiographé, je pense qu'il a chose se dire. On en a fait une espèce de
ça. Agiographé,
dont une biographie justement agiographique et sous la forme d'un film sort mercredi prochain, c'est-à-dire le 6 avril. Film qui a pour titre le nom éponyme de la personne. Il s'agit de Kinsey, ce monsieur Alfred Kinsey, qui est né au crépuscule du 19e siècle. 1894 et qui est décédé en 1956. Voilà. Alors on me dirait à quoi bon ça sert de parler de cette histoire. Il y a un film, vous en faites encore une histoire, Amiche. Mais j'ai toujours l'habitude de faire beaucoup d'histoires avec un centre de films. Bon, peut-être les auditeurs n'ont pas totalement oublié l'affaire de la Passion du Christ de Gibson. Et ben aujourd'hui, c'est malheureusement un autre aspect. Alors. Je peux parler, à moins que Serge vous ait des questions à me poser.
Non, j'ai simplement prévenu les auditeurs qu'on allait aborder des sujets
un petit peu délicats.
Sensibles, d'une manière peut-être un peu crue, et que, enfin en tout cas ouverte, à parole ouverte, et donc c'est pas absolument indispensable que les enfants ou les tout jeunes adolescents.
Ou les personnes sensibles, soit vraiment à l'écoute.
Voilà, parce qu'on est amené pour dévoiler. l'incroyable imposture de ce personnage, la crapulerie insane de ce personnage, on est amené à dire des choses. Voilà. Des choses
pour c'est l'heure d'aller travailler sur le rapport King.
Voilà, c'est l'heure d'aller travailler. Alors je voudrais quand même, à ce sujet, pour montrer l'importance que le personnage a eue, évidemment pour les auditeurs les plus âgés de cette station, de cette émission, Kinsey, le rapport Kinsey leur dira quelque chose. Oui, pour les plus jeunes, ça ne dira rien du tout. Je parle tout simplement de deux petites informations, des faits divers, plutôt des faits de société, qui sont toutes les deux, hélas, tirées du Figaro. Ce n'est pas que j'ai une détestation particulière pour le Figaro, disons que le Figaro fait partie de ma détestation générale pour la presse qui les informe. Une information du 25 mars et une autre du 30 mars. Vous voyez que c'est pas aussi vieux que ça. Alors la première du 25 mars, c'est une mésaventure qui est arrivée à une petite jeune fille. Elle s'appelle Elodie, elle habite à Sarreguemines en Moselle. Ça doit pas être tous les jours très drôle de vivre à Sarreguemines. Bon, elle est en quatrième, elle doit avoir quoi, 13-14 ans. Puis là, elle vient se faire prendre une colle. Elle était collée par le principal de son établissement pour la raison suivante, c'est qu'elle a refusé de faire un devoir. De faire un devoir, on lui demandait d'expliquer, on appelle ça un IDD, ça s'appelle un itinéraire de découverte, ça s'appelle, hein, sur, on est pour les enfants de quatrième, hein, une petite fille de 13 ans, découvrir et vivre son corps au 18e siècle et au 21e siècle. Alors on leur posait la question, il fallait qu'elles fassent un petit mémo là-dessus, sur les phénomènes qui surgissent dans l'adolescence, la transformation du corps, les époques de l'amour pour un enfant de 13 ans. Alors la petite fille n'a pas voulu faire, elle a été collée, parce que le principal estimait que c'était absolument scandaleux. Et les parents ne se sont pas laissés faire. Ah, donc il y a eu une association, les parents ont donc manifesté contre ça, ont distribué des tracts, en disant que ce devoir était une provocation, hein, parce que la découverte de l'amour, c'est une chose trop sérieuse, écrit le tract des parents, pour qu'elle soit l'objet d'un traitement obsessionnel d'une quelconque autorité. Ils ont bien raison, ces parents. Oui, ils ont bien raison, seulement, les profs ne comprennent pas, les deux professeurs d'âme qui ont fait ça comprennent pas. Ce sont des personnes qui ont été formées à l'école de Kinsey. Et la fédération, une grande fédération d'ailleurs, la fédération, la FCPE, dénonce, stigmatise le conservatisme de certains parents, alors même que les adolescentes sont enceintes dès l'âge de 14 ans dans la région. Et oui, pourquoi elles sont enceintes à l'âge de 14 ans? Tout ça, nous sommes dans le monde de Kinsey. Un autre fait de société, donc tiré du même quotidien matutinal, pour le différencier du quotidien vespéral. C'est la seule chose qui les distingue, d'ailleurs, quand on réfléchit bien et sérieusement à la chose, du 30 mars. Alors là, ça va être le SIDA Action. Toutes les chaînes se mobilisent pour récolter des fonds. Le SIDA expliqué aux jeunes. Et alors, on va avoir le droit à la sidération médiatique là, avec cette histoire, hein, si je peux me permettre. Hein. Alors là, par exemple, on nous indique, c'est un article tout à fait intéressant, d'un monsieur dont je tairai le nom, Mon Canard, alors c'est un journal télévisé pour les jeunes, pour les 8-14 ans, hein, sur France 3, on va aborder le sujet donc de la lutte, la prévention du sida, avec trois enfants présents sur le plateau. Que les parents permettent que les enfants soient sur un plateau, déjà quelque chose d'assez scandaleux. Citation du rédacteur en chef, un certain Antoine Pivnik. Nous avons voulu en discuter avec eux, ces enfants, parce qu'on s'est rendu compte, à travers le courrier reçu, qu'il y a un vrai manque d'informations. Donc, Antoine Pivnik, en effet, la question comment se transmet le virus du sida, il y a eu un questionnaire qui a été fait auprès d'enfants, a été posé par un journaliste, on va le voir dans ce reportage, à des jeunes de entre 8 et 14 ans.
Et c'est à pleurer parce qu'on va leur donner des idées qui ne les ont jamais effleurées, en définitive, pour l'instant.
Nous sommes encore dans le monde de Kinsey. L'article se termine en disant, parce que l'article fait grand cas d'une anecdote ou d'un incident de plateau survenu avec une comédienne qui, pour montrer que le sida ne s'attraperait pas, a embrassé sur la bouche une personne atteinte du sida, et après tout le monde s'est embrassé sur le plateau.
Alors tout le monde a eu des
dames avec les messieurs, les dames, il n'y a que les bouches de métro qui n'ont pas été embrassées, mais c'est quelque chose d'effrayant. Et l'article se termine comme ça, il faut faire toutes ces choses, toute cette mobilisation, et apprendre aux plus jeunes comment se protéger du sida, vous imaginez, des enfants de 8 ans, bon, pour dire que l'amour demeure le meilleur rempart face au sida.
Quel amour, à 8 ans, même sa maman.
Alors voilà, c'était deux petites anecdotes dont je voulais parler pour montrer où on en était. Tout ça, nous sommes dans l'école de Kinsey, nous sommes dans la logique que ce monstre absolu a inventé dans les années 30 et 40. Bon, voilà. Donc ça, c'était le petit préambule que je voulais faire.
Mais alors, quand tu dis ce monstre absolu, bon, monstre absolu, on pourrait dire parce que dans son rapport, il a en quelque sorte, comme on dit les gens branchés, il a dédramatisé le sexe. Il a rendu au sexe sa dimension d'activité naturelle.
Ça, c'est pas qu'il sait qu'il a inventé. Le sexe est une activité extrêmement naturelle. Depuis le commencement de l'humanité, il faut dire que c'est aussi grâce au fait qu'on a découvert que c'était une chose naturelle que nous sommes là aujourd'hui pour parler.
Ce que je veux dire, c'est, je suis en train de me faire l'avocat du diable. Ce qu'on nous explique, c'est que Kinsey, en fait, il a montré que peu ou prou, tout le monde est un petit peu tordu de ce côté-là.
C'est un imposteur.
En fait, il n'y a pas de perversion. Il n'y a que des comportements sexuels différenciés ou indifférenciés. C'est pas le problème. Et puis qu'au fond, il n'y a pas besoin de se culpabiliser parce que on est un petit peu gay ou un petit peu si. Après tout, tous les hommes sont un peu gays, toutes les femmes sont un peu le contraire,
etc. Oui,
et tout ça va très bien. Tout le monde.
C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans ses statistiques.
Il dit d'une façon scientifique.
Je vais poser une question parce que je ne connais le rapport Kinsey que de nom. Je ne l'ai jamais lu. Et bon, d'après ce que j'avais entendu dire, c'est en effet bon une collection de statistiques, de sondages d'opinion, voilà, si j'ai bien compris.
Ce sont des statistiques, hein.
C'est ça la question.
Alors c'est ça le grand problème, c'est la façon. Bon, Kinsey, c'est un imposteur au plan scientifique. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un statisticien, ce n'est pas un sexologue. C'est une personne qui avait une petite spécialité universitaire dans le domaine de la. Comment ça s'appelle ça? De la zoologie. Enfin, il s'occupait des guêpes. Son truc, c'était les guêpes. Hein, ce qui lui donne évidemment.
L'entomologie.
Parce que si, par exemple, Serge de Bekech avait le ténia et donc, ou avait étudié le ténia et que c'était l'autorisation de parler, par exemple, de la démographie au Groenland. Il n'est pas tellement dans la chambre. Ça ne donne pas. Lié. Non, ça n'ouvre pas. Alors, il s'est passé que dans les années 30, il aurait été, parce que la chose n'est pas très très claire. D'ailleurs, même ses biographes, ils ne sont pas très très francs du collier. Il aurait été, on lui aurait demandé, parce que c'était un type qui était très apparemment très sympathique, on lui aurait demandé, des jeunes de l'université de l'Indiana, où il était professeur, lui aurait demandé de faire un cours sur la sexualité humaine pour les étudiants fiancés et mariés. Puis alors, bon, ça a très bien marché. La première année, enfin, il y a eu quand même quelques... lui, il a fait ça de façon extrêmement crue, et puis ça a très bien accroché. On a renouvelé ce cours l'année suivante, grâce à l'amitié du président, que le président de l'Université de l'Indiana, qui était un monsieur célibataire qui vivait avec sa maman, avait pour Kinsey. Et puis, on est allé à des choses de plus en plus. Et là, Kinsey a eu l'idée de faire une étude statistique sur la sexualité des hommes américains. Bien. Alors il l'a fait parce que c'est toujours pareil. Ça, les scientifiques ne procèdent pas de cette manière. Les scientifiques ne partent pas de préjugés, ils partent pas de d'hypothèses a priori. Bon, il essaye de définir une méthodologie. Bon, et ensuite, quand il a appliqué sa méthodologie, son statistique. On obtient des résultats et on essaie de comprendre statistiquement ce que veulent dire les résultats. C'est pas ça du tout. Chez Kinsey, c'est le contraire. Lui, ses turpitudes personnelles, ses turpitudes sexuelles personnelles ont été le présupposé de son enquête. Il voulait absolument trouver une justification statistique à ses propres turpitudes, qui était du domaine même pas racontable.
Mais c'est capital ce que tu viens de dire. C'est toute la pierre d'achoppement de l'affaire. C'est capital.
Et toutes ces statistiques sont fausses. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de statisticien dans l'équipe de Kinsey. La Fondation Rockefeller, qui a été le bailleur de fonds de la première étude de Kinsey, a même été obligée, c'était à l'époque où Dean Rusk était le président de la Fondation Rockefeller, a même été obligée de suspendre son financement. Parce qu'il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas et que dans la communauté, dans la vraie communauté scientifique, les gens disent « Attends, c'est statistique, c'est rien du tout. » Et je vais expliquer pourquoi c'est rien du tout. Alors évidemment, la Fondation Rockefeller a cessé de bailler des fonds et c'est Playboy, c'est la Fondation Playboy, c'est Hustler, c'est tous ces pornocrates qui ont financé le truc. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi c'est faux son truc et que les statistiques sont absolument fausses. L'essentiel de son travail a été fait dans les années 40, on peut dire, les grosses statistiques ont été faites dans les années 40. Il faisait raconter des histoires sexuelles à des hommes américains. Bon, il se trouve que dans les années 40, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Américains majeurs étaient en principe à d'autres occupations que de répondre aux questionnaires de Kinsey. Ils étaient sur différents fronts, bon, en Pacifique, en Europe, etc. Donc il ne lui restait pas grand monde pour à interroger, pour avoir des statistiques, avec les étudiants du campus. Mais comme le questionnaire qu'il avait élaboré de 350 questions, dont je vous mets au défi de d'avoir copié aujourd'hui, y compris par la Fondation Palace de Kinsey. Mmh. Ça, c'est absolument caché, ça ne sera jamais divulgué. Comme ces questions étaient, disons, intrusives, pour parler le langage moderne, c'est-à-dire d'une indécence, et finalement, les jeunes gens, les jeunes garçons, jeunes étudiants, ne voulaient pas répondre à ça. Bien. Et donc, à qui a-t-il eu recours? Il a eu recours à tous ceux qui n'ont absolument aucun scrupule pour parler de ces choses. C'est-à-dire des criminels sexuels en tôle, des pédophiles à répétition, toutes sortes de racailles absolues. Et il a fait la même chose quelques années plus tard, quand il a fait son étude sur la sexualité des femmes. C'est-à-dire que son échantillonnage...
Ça n'a rien à voir avec un panel comme le font les instituts de sondage où on respecte les catégories.
Donc évidemment, quand vous interrogez des gens qui sont des pervers polymorphes, vous allez avoir des résultats absolument épouvantables. C'est qu'il avait trouvé que 95% des mâles américains avaient eu une fois ou plusieurs fois dans leur vie, et de façon régulière, plutôt régulière, des comportements préconjugaux, des comportements adultères, des comportements homosexuels, des comportements pédophiles, des comportements de bestialité. Alors, c'est très facile d'avoir des statistiques. Bon, alors on part là-dessus. Chose encore beaucoup plus criminelle, c'est vraiment tout à fait criminel. Kinsey était un homme, un théoricien pratique. Il aimait beaucoup les travaux pratiques. En cette matière, vous imaginez ce que ça peut donner. D'ailleurs, il en est mort lui-même de ses travaux pratiques. On a prétendu qu'en 56, il est mort d'une pneumonie. Il n'est pas mort d'une pneumonie. Il est mort d'une maladie, d'une infection qu'on attrape généralement en pratiquant sur soi-même des formes d'auto-érotisme que la morale réprouve, mais que la gymnastique acrobatique peut éventuellement expliquer. Il est mort de ça. Et il avait donc une équipe...
Il n'est pas mort pendu à l'espagnolette
En quelque sorte. C'est-à-dire que là, il a réussi à se dépendre, mais malheureusement, voilà, il a eu une...
Il n'était pas vendu par le coup. C'est une maladie génitale.
C'était alors ce homme, il faut savoir que cet homme était un... Bon, qu'il était inverti est une chose qui n'était pas aussi banale que ça, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais enfin, il était quand même une tendance pédophile extrêmement marquée. Il était sadomasochiste, et donc pour lui, toutes ces perversions liées à l'activité sexuelle non orientée vers la reproduction, simplement pour le plaisir de la sexualité, étaient tout à fait licites, puisque le monde, toute la société américaine était comme ça. Vous voyez, pourquoi alors il fallait donc changer les lois, ce qu'il a d'ailleurs arrivé à faire. Il a réussi à faire modifier le nouveau code pénal, ce qu'on appelle le Model Penal Code, le code pénal modèle américain, en 1955. Hein. Bon, il est très 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 souvent de fois cité par ça. Et donc il avait une équipe une équipe autour de lui, dont il filmait les ébats. N'est-ce pas ? Soit sur le campus de l'université, soit dans le grenier de sa maison, n'est-ce pas ? En obligeant les gens à avoir ce type de relation. Il avait, par exemple, dans son équipe, parce qu'il était raciste et antisémite. Bon, il ne voulait absolument avoir ni afro-américain, ni juif américain dans ses équipes de recherche. Bon.
Il tordait déjà la statistique.
Alors sur les femmes, par exemple, on a vu des choses tout à fait extraordinaires. Il avait estimé, quand il a fait son étude sur les femmes, il avait exclu de son échantillonnage 384 femmes noires afro-américaines, au motif qu'elles n'étaient pas représentatives de la population, mais par contre, il a pris dans son panel 37 femmes qui n'avaient que des relations sexuelles de bestialité. Voilà, alors comme ça, c'est plus intéressant pour les statistiques. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce personnage s'est appuyé. Évidemment, il fallait avoir de l'information auprès de personnalités, de personnages, la plupart en prison, des dévergondés sexuels de la dernière espèce. Et comme ça ne suffisait pas, il s'est aussi appuyé sur des statistiques obtenues de pervers pédophiles. Un aux États-Unis qui était dont il connaissait l'identité, c'est le fameux Monsieur X qui a défrayé la chronique dans les années 50. Il a fini au bout de 15 ans ou 20 ans à se faire prendre aux pattes par le FBI, qui était on l'a jugé était responsable du viol de plus de 800 enfants, 800 petits enfants, bien, petits garçons et petites filles. Il était polymorphe celui-là. Bon, et Il connaissait cette personne qui fournissait à Kinsey donc des détails tout à fait précis.
Ça n'a rien à voir avec une statistique, ça.
Mon cher, c'est monstrueux. C'est ça, Kinsey. Il a été lui-même en relation épistolaire, lettre, par sans doute le plus grand pédomane que l'Allemagne ait connu. Alors le nom m'échappe et puis vraiment ça me...
Je vous félicite en passant d'employer le terme pédomane qui, d'après moi, devrait être le terme utilisé,
ouais,
et non pas pédophile.
Pédophile, c'est-à-dire qui aime les petits-enfants, pour ça on peut les aimer.
Les grands-pères,
voilà,
c'est pédomane qui est le vrai terme, tout à fait d'accord.
Un type qui était membre du Parti National Socialiste et qui n'a jamais... allemand, donc il n'a jamais renié ses convictions, un Berlinois qui a écumé pendant plus de 30 ans la chair fraîche enfantine. Il a été pris au fait le jour où il a quand même fini par tuer une petite fille de 11 ans. Et il se trouve aussi qu'on sait qu'il avait violé le petit garçon d'un pasteur protestant de Berlin et qu'il obligeait, ce garçon devait avoir 8-9 ans, hein, et il l'obligeait donc à écrire pour Kinsey tout ce qu'il avait ressenti, patati patata. Savoir que pour faire des statistiques, la thèse de Kinsey et des bringzingues qu'il y avait autour de lui, c'était que l'homme a une sexualité de l'utérus à la trombe. Dans la tombe, c'est très compliqué à prouver, mais enfin, entre ces deux extrêmes...
Moi, j'ai des copains qui ont baisé à tombeau ouvert, mais enfin bon...
Alors, pour prouver ça, c'est un sujet extrêmement sérieux. J'ai traduit un livre américain qui va paraître très bientôt aux éditions de l'Homme Nouveau. J'avoue que, bon, vraiment, on a des trucs... Pour arriver à prouver ça, comment prouver que les préadolescents, ceux qui sont pas pubères, et surtout des nourrissons, sont... alors je m'excuse par avance auprès des auditeurs, mais il faut que je le dise, je crois, hein, il faut que je le dise. Bon. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des petits nourrissons de 4 mois, 5 mois, 6 mois, qu'on attachait, évidemment, et puis des spécialistes, des pédomanes avérés, sous le regard de Kinsey. Parce que ce pédomane allemand, Kinsey était en relation épistolaire avec lui extrêmement régulièrement pendant des années. Il ne l'a jamais dénoncé aux autorités allemandes, pas plus qu'il n'a dénoncé le monsieur X aux autorités américaines. Bon.
Alors on attachait. Complice de criminel.
Complice, c'est vraiment. On est dans le domaine de l'abomination de la désolation. Alors on attachait ces petits enfants. Et puis, on faisait devenir des pédomanes, qui les manipulaient buccalement, manuellement. Bon. Jusqu'à temps que le gamin, le petit bébé, ait une crise de larmes compulsive. Orgasme. Alors, ils ont fait ça sur des petits enfants de cet âge-là, de quelques mois, pendant 24 heures d'horloge. 24 heures d'horloge, avec des gens chronométrants. Et des pédomanes se relayant auprès de ces gamins pendant 24 heures. Et alors, on a trouvé que dès 5 ans, ils avaient déjà une sexualité, puisqu'ils arrivaient à 26 heures de gaz. C'est-à-dire que pendant 24 heures, le gamin avait hurlé pendant 26 fois. C'est vraiment des salopards.
Mais alors, on a su ça quand?
On l'a su grâce à des chercheurs. On le savait déjà un petit peu à l'époque de... Parce qu'il a caché, c'est un homme...
Parce que là, on est dans la criminalité absolue.
Absolument, tout ça.
C'était pas Hoover qui était à la tête du FBI déjà à l'époque?
C'est tout à fait possible.
Parce que Edgar Hoover, il était bien complice aussi.
Alors, il y a eu beaucoup de complicité. Des gens qui étaient intéressés parce que ça leur justifiait leur propre turpitude. Et des gens qui ont fait carrière, qui ont gagné de l'argent, qui ont eu des métiers et des honneurs, parce qu'ils étaient, dans l'idéologie. C'est une idéologie qui n'a strictement rien à voir avec la science.
Il faut dire qu'on l'a su parce que un de ses principaux collaborateurs a fini par tout raconter.
Beaucoup de collaborateurs ont parlé,
collaborateur a fini par tout balancer.
Ils ont parlé.
Quand même,
c'est dû aux recherches d'une femme tout à fait exceptionnelle, qui s'appelle le docteur Judith Reisman, qui est une juive américaine, et qui a, pendant plus de 20 ans, après d'ailleurs le viol de sa petite fille. Une petite fille avait 11 ans, a été violée par un détraqué, elle comprenait pas que ce type était en liberté, elle n'a pas compris. Et là, elle est remontée, et elle a vu que Kinsey, non seulement était un détraqué, qui a absolument détraqué la notion même d'une saine et normale sexualité. Moi, je suis pas un père la pudeur, je veux dire. Bon, c'est une chose tout à fait normale. Bon. Mais a aussi détraqué tout le système, c'est la révolution sexuelle américaine, a détraqué tout le système judiciaire, américain, où on a abaissé, puisque tout était normal. Kinsey, par exemple, prétendait que le viol, c'était pas grave. Le viol, c'est rien du tout. Tout le monde oublie un viol. Tout le monde oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence entre un viol et un bon moment passé avec une fille? Bah, c'est si les parents sont réveillés quand la fille rentre à la maison. Voilà, c'était les thèses de Kinsey. Bon, c'est un personnage absolument honteux. Alors, pourquoi je me suis mis dans ces genres? Parce qu'il y a un film qui sort, donc, un film de Bill Condon, qui sort la semaine prochaine, le mercredi 6 avril, qui est un film qui est une hagiographie de Kinsey. Ouais. Et ce film ne dit pas qui était Kinsey. Donc, c'est une imposture. Le film est une imposture aussi forte que l'a été la vie de Kinsey et la fameuse recherche de Kinsey.
Quelle sorte de film on peut faire là-dessus?
Ah ben là, je sais pas.
De toute façon, j'ai pas regardé des photos intéressantes.
Moi, tout ce que je fais, c'est de.
J'ai vu quelques photos du film. Elles sont tout à fait regardables. C'est sur Internet.
Le film est très bien fait. L'acteur est très bon. C'est une biographie de Kinsey.
Voilà. Mais alors, tout ça est dans le style américain. Vous savez, c'est un universitaire. Veste en tweed, etc. Souriant, grand, costaud, bon, très très sympathique. Très simple, quoi.
Donc je voulais quand même dire, parce que on a fait une première brochure qu'on a un peu diffusée auprès de la presse, parce qu'il faut quand même faire une contre-attaque. C'est pas possible de laisser passer des choses comme ça. Donc on a fait aux éditions de nouveau une petite brochure que nos amis auditeurs pourront se procurer. D'ailleurs, ils ont été très très nombreux à téléphoner dans ma précédente intervention sur cette question. Ça s'appelle Kinsey en quelques questions-réponses, une vingtaine de questions-réponses qui dit l'essentiel. Non, pour les détails, il faudra attendre la parution du livre. La traduction est achevée, mais enfin, il y a quand même encore un travail de mise en stage.
Ça me fait plus rire du tout.
Mais alors, je crois que les
non, là, ces brochures, je peux dire
que c'est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est l'homme qui est à l'origine de la situation du chaos social dans laquelle on est.
Je ferai un commentaire. Parce que là, on est vraiment dans la turpitude hollywoodienne. Donc, cette brochure, c'est 4 euros, donc les gens peuvent venir l'acheter. C'est à la librairie de Le Nouveau, 10. Rue Rosenwald, RONSENWALD, 75015 Paris. Je vais donner un téléphone 01 53 68 99 117, 01 53 68 99 77. Vous conseille de la lire. Effectivement, on a mis derrière un petit bandeau noir, hein. C'est pas à mettre entre tous les yeux. Et je veux dire, c'est très important parce que ça veut dire que Hollywood, c'est vraiment le monde de la perversion, parce qu'il y a un autre film qui fait également passer subrepticement la pédophilie. C'est le film dont une certaine presse, même Mamie d'ailleurs, a dit du comment quand bien, c'est Finding Neverland, qui elle raconte la biographie extrêmement romancée de Monsieur Barry, c'est l'inventeur de Peter Pan, celui a écrit Les Aventures de Peter Pan, Les Enfants qui ne veulent pas vieillir, qui était un pédomane de première classe avec Palm. Et puis, pareil comme ça pour un pédoman avec Palme. Bon, c'est absolument scandaleux et honteux. Et je crois qu'il fallait que quelqu'un le dise. Ben voilà, on le dit. Voilà, Kinsey est un film, c'est une imposture au sujet d'un imposteur qui fut véritablement un corrupteur. Voilà, c'est la corruption qui fait ça.
Et le livre sort?
Le livre va sortir dans 3 semaines à peu près. Il s'appellera d'ailleurs Kinsey le corrupteur. Traduction de l'Amérique.
J'ai une petite annonce à faire, je la fais tout de suite. Le Forum de la France chrétienne organise le vendredi 1er avril 2005, c'est-à-dire après-demain, un concert de Yunko Okazaki, qui est une pianiste de quelle nationalité?
Je pense qu'elle est coréenne ou japonaise, non? Bravo,
vous avez gagné. Donc, Yunko Okazaki, qui est catholique, je le signale, pour les gens qui s'intéressent. Ça a lieu à la salle Gaveau, 45 rue de la Boétie, Paris 8e. Réservation 08 20 39 99 37.
Répétez.
Alors, 08 20 39 99 37. Non, mais c'est... Oui, il y a un autre téléphone que je donnerai après. Il y a une chose qui est amusante, c'est qu'après le concert... c'est une jolie idée, je trouve. Les organisateurs du concert font un buffet, mais c'est un buffet spécial, c'est-à-dire que, voilà, c'est un buffet hors du panier. Chacun apporte, alors, on demande aux messieurs d'apporter des boissons, et aux dames d'apporter des petits fours, des sandwichs, une citrouille, enfin, ce que vous voulez, quoi, quelque chose qu'on, c'est une idée, je trouve très amusante.
Les dames apportent le solide, les messieurs le liquide, et nous apportons nos verres.
Petits fours voilà. Pour un spectacle.
Le téléphone 08 71 04 40 06. 08 71 04 40 06. Merci d'être resté à l'écoute. À la semaine prochaine, je crois. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 mars 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 31, dans la nuit de 2h à 5h et dans la